Tout de suite et en direct, le Libre Journal de Serge de Beccacci. Il me reste à vous souhaiter une très bonne soirée. Vous écoutez Radio Courtoisie. Il est 18h.
Radio Courtoisie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel
et de la francophonie.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Beccacci avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 29 novembre 2006 de 18h à 21h, en différé jeudi 30 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en écrivant à contact@radiocourtoisie.com.
Patrick Goffman au micro, et cette fois c'est une bonne nouvelle. Écoutez un peu, nous attendons le père Arguarche, la surprise générale. Nous attendons Jean Frola, de l'inventeur de l'appareil Evolua, on en saura un peu plus tout à l'heure. En face de moi, notre divin marquis d'Eolmeta. Bientôt matérialisé à ma gauche, la camarade Victoria, et à ma droite, ladies and gentlemen, le sieur de Beccacci.
Amis de la Résistance, bonsoir. Bonsoir. Alors, parce que voilà, je vous ai expliqué ce qui se passe. Comme la semaine dernière, on m'a fait plein de compliments sur la façon dont Goffman avait dirigé l'émission, j'ai voulu vérifier. Bah, je trouve que vraiment les auditeurs sont très indulgents. Hein. Oh là, qu'est-ce que c'est mauvais. Bon, enfin, ça fait rien, Goffman. Vous ferez des progrès avec le temps.
Restez patron. Bon.
N'empêche que c'est quand même lui qui va diriger l'émission, parce que, comme le dit un auditeur qui est pas content, comme je fais ce travail comme un pied, et qu'il se trouve que justement, c'est là que j'ai mal, eh bien, je vais être obligé de me reposer un petit peu.
Il a posé son pied pratiquement sur mes genoux pour les auditeurs qui n'ont pas la radio en couleur.
Cette radio est une grande famille.
Ça devient vraiment un tuyau de poil, ou un petit peu patron. Bon, je dis patron parce que, nous étions convenus en préparant soigneusement
cette émission. C'est très amusant, en fait, depuis un moment. Goffman, je ne sais pas si je vais vous garder. On attend quand même Jean-Pierre Rondeau qui devrait nous rejoindre, et on attend Victoria qui est bloquée dans les embouteillages.
Jean-Pierre Rondeau, notre expert financier indépendant, et Victoria, notre experte.
Qui est dans le Rondeau Veneziano de du périphérique.
Et on attend, comme vous l'avez dit, le père. On attend tout le monde, en fait. On est là comme des.
En attente.
Voilà.
Mais aussi un invité surprise.
Et puis on attend un invité surprise. Alors là, je crois que ça sera.
Grosse surprise.
Oui, ça va être la grosse surprise. Enfin, sauf pour ceux qui lisent utilise le blog de Radio Courtoisie.
Rappelons l'adresse.
C'est pas sur celui-là. C'est le blog, je sais jamais quelle est l'adresse.
Elle est compliquée.
Ah voilà, déjà Jean-Pierre Rondeau.
Jean-Pierre Rondeau, oui.
Mais ceux qui lisent les programmes qui sont communiqués par Jean-Gilles Maliraquis sur le blog.
Ça doit se trouver sur
Radio Courtoisie.
Radio-Courtoisie.com.
Ils savent qui est cet invité. Pour les autres, tant pis, ils auront la surprise, ou tant mieux, je sais pas. Mais moi, je veux dire, je suis très très content de le faire venir, ce monsieur-là, cet invité-là, parce que je pense qu'on a des choses intéressantes à se dire. Et en plus, il m'a quand même un petit peu impressionné plusieurs fois. Non seulement comme comédien, mais aussi comme personnage. Alors, voilà. Bon, enfin, j'en dis pas plus.
Vous avez déjà livré la moitié des choses en disant qu'il est comédien.
Voilà. L'actualité. Alors, je voudrais faire une remarque à mes petits camarades. Vous êtes très imprudents, messieurs, je vous le dis. Parce que vous devriez savoir que dans le quartier maintenant de la porte de Saint-Cloud, pour circuler tranquillement, il faut avoir une kippa ou s'être passé la figure au broc de noix. Autrement, vous risquez de prendre une bastos.
Ou les deux, on les fait à la chasse, non?
Oui, ça aussi. Ceux-là, ils sont doublement à l'abri. Autrement, vous prendrez une bastos. Donc, faites attention en sortant, montez vite dans vos automobiles, ne criez surtout pas « Vive la France !» parce que là, vous savez qu'immédiatement, ça veut dire que on a le droit de vous buter à bout portant.
Il criait Le Pen président.
Il criait Le Pen président. Ah, incroyable.
Les propos racistes.
Courageux policier, n'écoutant que son courage, a sorti son arme
de service
et il a fait feu en une seule fois. D'ailleurs, en général, on dit que les flics tirent pas bien, mais lui, d'ailleurs, chapeau bas devant la guerre éclair, parce que avec une seule balle, il a fait deux trous.
C'était un peu une vache dans un couloir, parce qu'il a tiré dans la foule.
Alors justement, cette histoire de foule, il faudrait, sur Internet, vous savez que ça va devenir de plus en plus difficile d'être politicien maintenant. Les politiciens ont de plus en plus de mal à mentir, parce que il y a toujours un emmerdeur avec un téléphone.
Oui.
Alors, dans le temps, quand on avait un téléphone, bon, d'abord pour avoir un téléphone, t'allais dans une cabine. Après, on a eu un téléphone sur soi. Maintenant, quand on a un téléphone, on a un appareil photo, on a une caméra vidéo, on a bien sûr, bientôt ça va servir un GPS, bientôt on pourra se faire servir le café. Ça fait penser à ces histoires qu'on racontait dans le temps, les contes de Mille et Une Nuits, vous savez, où le gars avait une petite, je sais pas quoi, une lampe, par exemple, il frottait la lampe, il y avait un génie qui sortait et qui lui servait une table avec couvert et banquet pour 15 personnes. Bon, voilà, c'est le téléphone finalement remplace la lampe d'Aladin. Eh bien, donc, pour en revenir à mon point de départ, pour une fois, je ne me suis pas égaré. Il y a sur le net des images vidéo de la scène où on voit très nettement le policier à l'intérieur du McDo. On voit le poing brandi avec l'arme meurtrière, mais ce qu'on voit pas, c'est la foule. On voit pas du tout de foule. Il y a peut-être à l'œil comme ça 5 ou 6 personnes dans le McDo qui entourent le policier en question. Alors il avait perdu ses lunettes. Il a peut-être cru que pour 5 personnes, il en voyait 10, 50, je sais pas. Mais en tout cas, et puis il y a autre chose qui m'étonne quand même, c'est que moi je croyais que pour être gardien de la paix, pour être dans la police, il fallait avoir une vue parfaite. Non ? Je me trompe ?
Il est myope d'un œil et astigmate de l'autre, ce gaillard. Il a perdu ses lunettes tout de suite.
Ouais.
Mais il a retrouvé son revolver au bon moment.
Il n'est pas daltonien aussi.
C'est-à-dire que s'il avait jeté ses lunettes sur la foule, ça n'aurait peut-être pas fait reculer beaucoup, faut dire.
Non. Hein? Serge, je sens que depuis un moment, vous essayez de me faire dire du mal de M. Sarkozy.
Ah non, pour lui... Oh, alors attendez, je vais dire, c'est pas mon genre du tout.
Non.
Parce que je trouve qu'il a déjà pas mal de soucis pour M. Sarkozy en ce moment. Tous les jours, sa cote descend.
On se demande pourquoi, puisque dès janvier, vous voyez, ce drame vient d'avoir lieu aux alentours du Parc des Princes. Eh bien, Sarko le Terrible l'avait prévu, et avait prévu de l'empêcher, s'il avait pu. En janvier 2003, il dénonçait, je cite, les ratonnades inacceptables aux abords des stades de foot. En février 2003, il se donnait 3 mois pour rétablir la paix dans et autour des stades. En janvier 2004, il promettait de mettre fin au hooliganisme. 18 mois plus tard, il disait qu'il fallait débarrasser les stades des voyous qui n'ont rien à y faire. Le 12 janvier 2006, il annonçait, je cite, la fin des violences dans les stades et la nomination d'un monsieur football. Ce qui est quand même rien.
La violence, elle n'a pas eu lieu dans le stade, là. C'était dans le McDo.
Et maintenant, il faut qu'il nomme un monsieur McDo.
Voilà.
Hein, le clown, comment il s'appelle le clown de McDo?
J'ai aucune idée, je ne fréquente pas.
Non. Elle est tort parce que.
C'est bon.
Vous pouvez faire ça à la maison. Si vous voulez, prenez un pot de viandox, mettez du sucre, vous trempez une éponge, ça fait un McDo.
Ah, très bien. Mais quand je vais recevoir mes neveux, c'est quoi faire.
C'est ça à peu près, on peut dire. Ouais. Hein.
En tout cas, à cause d'irresponsables comme ce policier, comme ces jeunes hooligans, M. Sarkozy a l'air d'être incapable de tenir ses promesses, de rétablir l'ordre en France. Alors qu'il est ministre de l'Intérieur depuis des années et des années, que le désordre fleurit. Du coup, il est obligé de passer des consignes. Alors, je suis obligé, moi, de donner les références. C'est le Canard Enchaîné de ce jour qui rapporte qu'il est obligé de faire passer des consignes pour truquer les statistiques. C'est quand même malheureux, parce que si
puis
ça
c'est
venait...
la première fois qu'on fait ça.
Si ça venait à se savoir...
Donc... Est-ce qu'on a une preuve de ça? Attendez, moi je veux bien, mais de dire que les hommes politiques se mettent à truquer les statistiques...
C'est possible, ça.
C'est tout mon univers qui s'effondre. Oui,
si c'est pas prouvé, ça va fumer pour le Canard Enchaîné, puisqu'il affirme, il donne des noms. Hein. Alain Gardère, chef de la direction de la police urbaine de proximité, dans la capitale, exige une baisse des chiffres de la délinquance à Paris.
Alain Gardère.
D'ici la fin de l'année. Oui,
si tu ne vas pas à Alain Gardère, bien sûr.
Ouais, c'est pas subtil parce que c'est pas la délinquance qui baisse, c'est les chiffres.
Ouais. Oui. Ah ben, bien sûr. Oui. Alors, il explique comment faire tout de même. Hein.
Ah bon.
Après avoir répété qu'il faut réduire l'augmentation de la délinquance révélée, chiffrée, sans décourager les troupes. Alors, un truc.
Vous savez, c'est... ça c'est fabuleux. Il faut réduire l'augmentation de la délinquance chiffrée. Alors, la délinquance réelle, tout le monde s'en fout.
Totalement.
Réduire la délinquance, tout le monde s'en fout. Il faut réduire l'augmentation de la délinquance chiffrée. Et il y a des mecs qui sont policiers. C'est un chef de la police qui dit ça.
Oui, c'est Alain Gardère.
Je suppose qu'il est payé pour faire ça.
De la direction de la police urbaine de proximité, que je croyais supprimer.
Et le mec vous dit, je suis pas payé pour remettre de l'ordre. Je suis payé pour... arrêter l'augmentation de la délinquance chiffrée. J'avais un prof de physique qui disait « Ah, plus tu pédales moins vite et moins tu roules, plus tu pédales moins fort et moins tu roules plus vite. » C'est un peu ça, hein. Si on dit au policier de Sarkozy, plus tu pédales moins fort et moins tu roules plus vite. Bonsoir, monsieur l'abbé, monsieur le curé. Non, même pas, il n'est ni abbé
ni abbé ni curé. Alors dehors.
Bonsoir, mon père.
Dégagez.
C'est le père Jean-Paul qui arrive.
Asseyez-vous,
mon père.
Alors, pour les malcomprenants, monsieur Gardère donne des exemples précis. Pour les ILS, infraction aux lois sur les stupéfiants, il faut établir une main courante informatisée. Vous comprenez? Ça veut dire que les mains courantes informatisées ou manuscrites, comme leur nom de main l'indique, vous pouvez passer une demi-heure ou une heure, comme ça m'est encore récemment arrivé au commissariat, ça n'entre pas dans les statistiques, c'est impeccable. Ça entre où? Ne me le demandez pas.
Dans la poubelle. Ouais.
Pourquoi il ne reprend pas la vieille idée qu'avait eu Pasqua, souvenez-vous, quand, je vais dire Maurice, hein, ou René, ou Jacques, je ne vais pas dire Mouloud.
Ah ben non, c'est une
connerie, d'abord.
C'est même pas vraisemblable.
Bon, volait 12 motos dans l'année, c'était pas 12 délits, c'était juste un bâton devant le nom de Maurice, et non plus 12 bâtons, donc il n'y avait qu'un délit. C'est pas mal comme système.
Vol de moto.
Voilà, vol de moto avec un S, mais on savait pas combien il y avait.
À S? À moto ou à vol?
Partout.
Autre explication détaillée.
Sans S, oui.
Autre explication de M. Gardère. Les plaintes pour escroquerie à la carte de crédit plombent les chiffres. Il faut les traiter avec une main courante informatisée et non par une plainte, puisque de toute façon, le possesseur de carte bleue n'est pas une victime, car il est remboursé par la banque.
Alors attendez, c'est fabuleux comme raisonnement. C'est-à-dire que, on parle pas, pour réduire le nombre des délits, le fait qu'il n'y ait pas de victime, ça ne signifie pas qu'il n'y ait pas de délit. Bon, oui, on est d'accord. Si je crie, par exemple, dans la rue, si je pousse un hurlement raciste.
Boum.
Un boum, par exemple.
T'es mort.
Voilà. Oui, mais enfin, avant, il n'y a pas forcément un policier attentif et citoyen, et en plus myope et astigmate à chaque coin de rue. Donc on peut imaginer, je pousse un hurlement raciste dans la rue. Il n'y a pas de victime.
Jacques Chirac qui trouve que c'est intolérable et qu'il faut tuer.
Il n'y a pas de victime, mais il y a un délit.
On va y venir. Il n'y a pas de victime, mais il y a un délit. S'il y a un flic qui m'entend, je vais droit en taule, parce qu'il y a un délit. En revanche, si on me vole ma carte bleue, naturellement, ma carte bleue m'est rendue tout de suite. tu peux toujours croire. Voilà. Mais donc il n'y a pas vraiment de victime. Il n'y a, pas de délit.
Et, mais il y a mieux, parce que maintenant il n'y a plus de vol de voiture. Parce que toutes les, vous vous faites voler ou brûler votre voiture, vous avez l'assurance qui paye.
Bah voilà. Donc c'est pas de victime. Il faut dire à comment il s'appelle, Alain Gardner. Ouais. Pour lui dire, ça, l'idée de Rondeau, elle est excellente.
Et même les brûlants, comme l'assurance les paye. Brûle, tout ça.
Et conclusion, quand vous êtes en train de tirer de l'argent, il faut se méfier des mains courantes qui vous entourent. Alors, parce que.
Bon, conclusion, avis aux délinquants et aux criminels, de toutes origines, de toutes races et de toutes conditions, calmez-vous un peu, parce qu'il y a des élections qui approchent, l'élection présidentielle en particulier, et d'obliger M. Sarkozy à truquer les chiffres de la délinquance.
Ça l'obligerait à truquer les résultats aussi.
C'est voilà, ça, pourquoi c'est... pas, alors qu'il est dans la position délicate de ministre de l'Intérieur à l'approche de ces élections, vous voyez le handicap que ça représente, et ben c'est pas très sympa. Donc calmez-vous pendant quelques mois, il vous renverra à l'ascenseur, vous verrez.
Oui, c'est, merci Goffin. Je rectifierai qu'une chose dans votre discours. Vous avez dit de toute race. Je vous rappelle que les races n'existent pas.
Ah bon.
C'est-à-dire pourquoi le racisme est poursuivi.
Tout s'explique.
Ah, voilà.
Et pourquoi on est obligé de tuer les gosses tuer les qui tiennent des propos racistes.
Qui sont, attendez, qui sont supposés avoir tenu des propos racistes, parce que c'est pas prouvé. C'est pas prouvé du tout. Quoi d'autre? Alors, Victoria est arrivée. Vous avez vaincu,
vaincu les embouteillages.
Les embouteillages, c'est bien ça.
C'est de plus en plus difficile de quitter le 19e à la porte de Pantin.
Ça vous apprendra à voter Delannoy.
Vous êtes vaincu, on n'a que 5 sièges.
C'est amusant.
Et nous de rire.
Mais oui. Peut-être qu'il faudrait que les habitants du 19e restent chez eux, je sais pas.
Mais non, mais le rêve de... Tiens, voilà aussi un moyen de faire baisser la délinquance.
Rester à la maison.
Le péage à l'entrée de Paris?
Non.
Comme à Londres?
Non, restez chez vous. Personne ne bouge. Le rêve de Delannoy.
C'est le couvre-feu, ça.
Ouais. Parce que Delannoy, il veut pas il veut pas qu'il y ait de voitures dans Paris. Parce que sa chanson, c'est les voitures, ça avance, ça recule, et si là, quand j'avance, etc. Ben voilà, comment veux-tu qu'on circule? Si quand
devant
j'avance, tu recules, comment veux-tu que je circule?
Là, on a des amis et des auditeurs qui vont téléphoner que c'est des propos intolérables devant un prêtre et que ça les déprime.
Mais c'est la devise de Delannoy, c'est pas la mienne.
Ah bon.
Si tu avances, si quand j'avance, tu recules, comment veux-tu que je circule?
Il persiste diaboliquement.
Mais toi, il est fou, ce mec.
Il est obsédé, je crois.
Non, je crois que c'est un malade.
Personne n'avait deviné quoi que
ce soit. Non, mais je vois pas ce qu'il y a deviné, là.
Dites, les amis, on est en train de traiter l'actualité, là, j'ai bien compris.
Eh ben, oui, l'actualité, je crois qu'on a dit ce qu'il y avait à en dire. J'aurais quand même dire un mot de Chirac, parce que chaque fois, je me dis, là, il a atteint le... On peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux que... Et c'est formidable, ce bonhomme, 74 ans.
Aujourd'hui même.
Il l'a fait à Riga. À faire pire. L'autre jour, à la télé, ce type qui, il y a 8 ans, a tenu un discours que le plus dingo des racistes n'aurait jamais osé tenir en public. Je vous le rappelle quand même sur l'odeur, le bruit, où il explique que vivre dans un appartement avec un nègre à côté qui a une 5 femmes et 20 enfants, ça pue, ça fait du bruit, et c'est lui qui le dit, il explique ça pendant... En plus, on le voit.
Il n'a pas dit le mot.
Hein?
Il n'a pas dit le mot.
C'était tellement transparent.
Bien sûr qu'il a dit.
Ouais, on a la citation.
C'est pas dur. Hein. Il a dit le travailleur immigré.
Voilà.
Je crois qu'il a précisé.
Et africain. Vraiment, ce type. Qui... Oui, oui, africain, mais bien sûr, il
le dit. Voilà. Avoir des Espagnols, des Polonais, des Portugais travaillant chez nous, ça pose moins de problèmes que d'avoir des musulmans et des noirs. Est-ce que ça vous suffit, Victoria, ou est-ce qu'il faut aggraver le cas?
Il n'a pas dit le mot.
Enfin, vous pourriez peut-être soutenir le chef quand même dans cette affaire, au lieu de l'enfoncer.
C'est le mot, c'est un synonyme. Nigger, ça veut dire noir
en
latin.
Oh,
mais non, c'est pas un mot interdit, il est dans tous les dictionnaires. Bon, enfin bref. En tout cas, ce type qui a dit ça, et qui aujourd'hui, quand on lui apprend qu'un gosse de 25 ans a été abattu sous le prétexte qu'on aurait on aurait pu peut-être entendre qu'il aurait crié. En plus, un truc qui n'a rien à voir avec ça, il aurait crié « Vive Le Pen ». Il vient à la télé, il fait une déclaration en disant que c'est intolérable et qu'il faudra sévir contre le racisme. Ça veut dire qu'il dit « Il faut maintenant appliquer la peine de mort aux gens qui sont supposés racistes ». Mais c'est comment les Français peuvent-ils tolérer d'avoir une ordure pareille au pouvoir? C'est invraisemblable.
Comment vous interprétez le fait que l'autre hooligan qui a été blessé et qui faisait partie du gang de fascistes nazis s'appelle Bouazza Mounir, quelque chose comme ça, un nom algérien? Ça, c'est quand même.
Mais il y a, écoutez, premièrement, le pauvre Julien Kemeny qui a été abattu. Il a été abattu après que la balle ait traversé Mounir Bedaïev. Ce qui veut dire qu'il n'était pas en première ligne. Enfin, bon, ça.
Il avait peut-être rien dit.
Il était peut-être en train de passer, il regardait et tout. Deuxièmement, il a un de ses amis d'enfance qui est venu témoigner à la télévision, que j'ai vu. Ça s'est passé très rapidement.
L'Antillais ?
Non, un Breton probablement comme lui. Un gars. On voit un brave garçon, gentil garçon. Il avait même en guise de mascotte une espèce de nounours accroché au revers de la veste. Il donne pas vraiment l'impression d'être un type du COP qui va prendre des battes de baseball pour aller casser de l'étranger à la sortie. Ça tient pas debout leur histoire. Ensuite, ils nous ont montré le lendemain l'assaut contre. Le siège du.
Le camp des loges, le camp d'entraînement du PSG.
Et là, qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, on a vu les bandes de voyous, mélanodermes des cités. On a vu notamment le premier qui a essayé d'enfoncer la ligne de protection de ce qu'on appelle les placiers de Saint-Germain, là, type qui avait des gilets oranges. C'était un colosse noir qui a foncé en tapant et tout. Celui qui était derrière, c'en était un autre. Le troisième, c'était un maghrébin. On a vu ça à la télé, quand même. Alors, moi, je veux bien, si ces mecs-là sont du COP, et ça fait appartient...
Non, ils sont pas du COP. Vous m'obligez, Serge, à intervenir en tant qu'amateur de football. Depuis un an ou deux, depuis 15 ans, il y a le COP, où on agite des drapeaux tricolores et où on est généralement blanc. Et puis, depuis un an ou deux, les jeunes, on se sont avisés de la composition de cette équipe, qui est largement méladonodère, comme vous dites, et ils ont constitué, dans le virage d'en face, le virage Auteuil, un groupe, notamment celui qui s'appelle Tigris Mystique, et qui est composé de jeunes de banlieue. Pendant le match qui a été suivi de mort d'homme, qui opposait Tel Aviv à Paris, où Tel Aviv a mis d'ailleurs 4-2 à Paris, vous aviez dans le virage Auteuil des drapeaux palestiniens, agités par les jeunes de banlieue, dans les tribunes, disons normales, des drapeaux israéliens. La masse des tribunes, c'était des drapeaux de Parisiens, israéliens, israélo-parisiens, et des drapeaux tricolores dans le COP. Est-ce que vous visualisez maintenant le Parc des Princes? Mais c'est quand même...
Très bien, mais enfin, oui.
Je vois que le ballon, là.
Voilà. Là, je regarde le ballon avec beaucoup d'intérêt.
Voilà, donc, ce qui est extraordinaire, c'est ce que moi, vous m'apprenez parce que moi, je n'ai pas la télé, donc la presse écrite à laquelle je suis cantonné, m'a dit les hooligans, les supporters du PSG ont attaqué le camp des loges. Donc pour moi, je me suis dit, ah merde, les petits fachos ont encore déconné. Et vous qui avez la radio en couleur, vous m'apprenez que c'était le club de supporters de banlieue qui ont attaqué le camp des loges.
Et on a vu les images, mais on nous a pas du tout expliqué ce que vous venez de faire fort brillamment. Merci, mon cher amateur de football. J'aurais tout eu dans cette émission. Ouais. Vous allez voir encore tout à l'heure, vous allez voir une drôle de surprise. Enfin, mais un amateur de football, j'aurais jamais cru. Jean-Pierre Rondeau, quel est... Alors, on a dit que, bon, sur le plan de la sécurité publique, la catastrophe est à peu près complète. sur le plan de la sécurité financière,
je voulais retenir, parce que j'ai eu deux appels aujourd'hui de personnes, j'aimerais bien retenir un tout petit sujet.
Ouais.
C'est le prêt hypothécaire rechargeable et le crédit viager.
Oh, attendez, je vais m'asseoir confortablement parce que là, je sens qu'on va passer un bon moment, là.
Non, non.
Alors le prix hypothécaire rechargeable.
Alors le prix hypothécaire rechargeable, c'est parce qu'aujourd'hui deux grandes banques ont annoncé qu'elles mettaient en place donc le prêt hypothécaire rechargeable. Le prêt hypothécaire rechargeable, c'est vous donner une hypothèque à une banque pour un crédit et au fur et à mesure que vous aurez remboursé, quand vous aurez remboursé une certaine somme, vous pourrez grâce à cette hypothèque qui reste en place, sans avoir en gros à refaire des frais d'hypothèque, etc., vous pourrez emprunter, et non seulement emprunter pour de l'immobilier, mais emprunter éventuellement pour une opération qui ne serait pas immobilière. Donc l'intérêt de ce prêt, c'est pas tout à fait à confondre avec le prêt qu'on a, ce qu'on appelle revolving ou renouvelable, c'est-à-dire on vous met une espèce de ligne de crédit, souvent à travers votre carte Visa ou votre carte bleue, on vous met une ligne de crédit et quand vous remboursez quelques mensualités, vous pouvez toujours réemprunter. Mais là, on tombe dans un crédit donc important et à chaque fois, on est quand même obligé, c'est pas automatique, on est quand même obligé de redéposer un dossier à la banque et la banque est libre d'accepter ou de ne pas accepter. J'ai été appelé par des auditeurs de Radio Courtoisie parce que depuis longtemps, ils attendent un prêt qu'on appelle le crédit viager, enfin pour certains attendre. Le crédit viager, c'est un système économique, un crédit qui existe notamment aux États-Unis et dans d'autres pays. C'est-à-dire que c'est généralement une personne qui n'a pas d'héritier ou qui a des héritiers qui peuvent vivre sans elle. Elle-même n'a pas de grands moyens et elle va faire un crédit, elle va donner une garantie sur son bien immobilier, son appartement ou sa maison, et elle va, le banquier donc va lui prêter un capital ou lui servir une rente pendant donc des années pour lui permettre de vivre. Donc aujourd'hui c'est le prêt hypothécaire dont on parle qui est
ça,
plutôt
ça permet de se venger de ses enfants, non?
Ça permet éventuellement de se venger de ses enfants, c'est effectivement bien, et c'est surtout intéressant aujourd'hui pour des gens qui ont vu leur patrimoine augmenter avec la hausse de l'immobilier, je pense par exemple à beaucoup de vieilles dames et qui ont donc un patrimoine mais qui n'ont pas par exemple une reversion de pension de l'époux suffisant, et donc ça peut leur permettre de vivre mieux jusqu'à la fin de leur jour. Néanmoins, donc, j'ai parlé qu'aujourd'hui on a signalé le prêt hypothécaire, la mise en place, mais le crédit viager, il n'est pas pour demain, bien que dans la loi il s'inscrive. Il n'est pas tout à fait pour demain parce qu'il est quand même un peu compliqué pour le banquier, dans la bonne raison que si la personne vit relativement longtemps, le banquier a un risque de voir les engagements donc de la personne dépasser la valeur de l'immobilier, et donc c'est un viager, donc il sera obligé de continuer à supporter ça à déficit.
On connaît ça depuis le célèbre film de Tchernia.
Alors on connaît ça, mais dans le cadre du film de Tchernia ou du viager classique, on a une contrepartie, c'est-à-dire qu'on accepte un risque, on va payer, mais on espère que la personne va décéder bien avant, et qu'en plus, donc on va récupérer. Tandis que dans le cas du banquier, il est obligé de rendre aux héritiers la différence qui n'a pas été mangé par l'utilisation du crédit. Donc, il existe en plus tous les systèmes aujourd'hui de se poser la question combien les gens vont vivre, on voit l'allongement de la durée de vie, etc. Donc, c'est assez compliqué, il est dans l'esprit, mais pour l'instant, il n'y a pas de banque qui est capable aujourd'hui, ou en tout cas qui ait l'intention, à ma connaissance, on aura peut-être une surprise demain, mais en tout cas, à ma connaissance, le crédit viager n'est pas pour demain. Voilà.
Je me souviens, il y a 20 ou 25 ans, il y a eu une boîte qui avait monté comment ils appellent ça ? C'était une espèce d'assurance obsèques. Oui. Système d'assurance obsèques. Alors, on payait, mettons, 50 francs par mois, et quand on mourait, l'assurance prenait à charge tous les frais d'obsèques, etc. Et apparemment, ils avaient mal fait leur calcul, parce que, je sais pas, ils n'avaient pas pensé que... si vous n'êtes pas au courant, je vous le signale, c'est une mauvaise nouvelle, mais c'est le fait est avéré maintenant, tout le monde meurt. Et ils avaient, non, mais tout le monde n'est pas malade, tout le monde n'a pas d'accident de voiture, mais tout le monde meurt. Et ils ont été obligés d'arrêter assez rapidement leur...
Non, ça marche très bien aujourd'hui, ça marche même malheureusement pour trois quarts des personnes qui y souscrivent, ils y souscrivent un peu bêtement, parce que ça serait bien pour une personne qui n'a vraiment rien, pas d'héritier derrière elle, pas d'argent, etc. Et donc de prévoir ses obsèques et de cotiser régulièrement, c'est un peu ça, hein. C'est acceptable. regrettable. Maintenant, je vois des clients qui ont des patrimoines très importants, des enfants qui les aiment, etc. Bon, et qui cotisent à une assurance d'essai, que, bon, malgré tout, les dépenses d'essai ne sont pas des dépenses énormes et donc rentrent bien dans le cadre d'un patrimoine. Voilà.
En plus, quand on n'a pas de famille, mais à quoi ça sert de se payer une belle tombe ?
Je pense que souvent, en tant que pour les chrétiens, par exemple, on a envie d'être enterré respectueusement, non ?
Ah non, mais tu n'es pas obligé de mettre un truc à 40 millions sur le ventre.
Non, mais quelquefois...
Une belle tête de terre suffit largement.
Quelquefois, une dépense de 1000 euros ou de... Je sais pas, je suis pas encore décédé, donc je sais pas combien ça vaut.
Mais... Vous nous direz, alors.
On va commencer à suivre ce que nous appelons notre conducteur dans notre jargon, c'est-à-dire que, comme l'heure approche à laquelle vous, Serge...
Je voulais faire deux petites annonces, si c'était possible.
Ah, ouais. Prévu,
qui n'ont rien à voir avec la finance.
Vous pourriez... Non, parce qu'il va les faire avec les annonces.
Pourquoi non, parce que c'est pas des annonces au sens annonce.
Dépêchez-vous.
Vous êtes une mère pour moi.
Il est dur, hein.
Juste, j'ai organisé pour une association dont je suis vice-président de parachutistes un dîner vendredi soir, qui est un dîner donc où j'ai voulu honorer les 50 ans de Budapest, et donc c'est Laszlo Martone qui vient faire la conférence. Dans cette association de parachutistes, malheureusement, comme ce même personnage, qui est un grand personnage pour moi et un ami, a eu le tort de tirer sur De Gaulle avec deux autres Hongrois... Je subis donc un boycottage. Donc j'ai quelques places disponibles et j'invite ceux qui souhaiteraient écouter
cette histoire. Même moi, j'habite à côté. Mais je dois découvrir ce café.
Alors vous serez mon invité. Je vous donnerai l'adresse tout à l'heure.
Ah. J'ai bien fait de vous laisser faire cette annonce. Elle m'intéresse.
Vous êtes vous mon invité, pas tous les auditeurs de Radio Courtoisie. Si on veut des renseignements, 01 44 51 62 20 demain.
L'a annoncé dans le livre journal.
Oui. Oui, vous l'aviez annoncé.
Qu'ils ont le temps de réserver? Est-ce qu'ils peuvent venir sans réservation?
Non, surtout pas.
Bon.
Mais
donc.
Demain soir, je confirme.
On répète le numéro alors.
01 44 51 62 20. Voilà. Par contre, je voulais juste parler en deux mots du 5 décembre et de la pétition qui circule au niveau des Français des Français d'Algérie. Le 5 décembre, vous savez que c'est le fameux monument inauguré par Chirac au Quai Branly pour célébrer les morts les morts militaires de la guerre d'Algérie, et ça, je le respecte. Néanmoins, ce monument nous a été attribué à nos pieds noirs, c'est-à-dire qu'on nous a donné une toute petite place, une petite plaque à coller sur le monument pour célébrer pour honorer nos propres morts. Et nous n'acceptons pas, il n'y a aucune communauté qui se verrait imposer un monument avec une date à célébrer le 5 décembre qui ne veut rien dire pour nous, c'est la date d'inauguration de Jacques Chirac. Donc, premier point, j'appelle à boycotter cette cérémonie qui est sous le haut patronage de M. Mekachera, qui nous a interdit d'honorer nos morts le 5 juillet. Premier point. Deuxième point, il circule une pétition parce que sur la plaque qui était collée, il était écrit donc pour les victimes civiles de la guerre d'Algérie, sans précision d'ailleurs, ça peut être des victimes ennemies pour nous. Mais certains d'entre nous avaient demandé que le 5 juillet et le 26 mars, qui sont des dates symboliques, soient inscrites. Ça a été retiré par le gouvernement qui veut ne pas rappeler que le 26 mars c'est la responsabilité du gouvernement gaulliste de l'époque, et deux, le 5 juillet, que l'armée sur ordre du général de Gaulle est restée dans les casernes et n'est pas venue au secours des Français qui étaient massacrés. Donc il circule une pétition à laquelle aussi moi je demande de pas signer parce qu'on n'a pas, c'est pas notre monument. Actuellement on a des monuments, on a notre ami Nicole qui a fait à Saint-Nicolas une plaque, on a les monuments de la Dimade, on a le Notre-Dame de Séoul, et on demande un monument national. On a le monument qui va nous être interdit de Perpignan, le mur de Perpignan. Donc on n'a pas supplié ce gouvernement et lui demandé une faveur à laquelle tous les hommes ont droit. Voilà, excusez-moi.
Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de Serge Debeketch, et vous notez que notre expert financier vient d'entamer le temps de parole de notre curé de choc. Il y a vraiment que ce Radio Courtoisie qu'on peut voir et entendre des choses pareilles.
Oh, c'est un ami,
alors,
qui me pardonnera.
Il vient de lui en bouffer d'autant plus, et c'est pas la peine que le père Aguache s'ébroue, que, avant qu'on ne lui donne la parole, Victoria a deux messages à nous donner, et Je voudrais également que notre divin marquis nous donne ses impressions de transit entre Cologne et Vienne, s'il le veut bien. Il va me faire signe si c'est oui ou non. Et qu'il donne lui-même, pourquoi pas, l'adresse de sa conférence. Ou est-ce trop tôt? Vous donnez une conférence en février bientôt. Vous l'avez pas sur vous.
J'ai pas sur moi.
On préparera notre coup encore mieux la prochaine fois.
Oui,
Victoria.
Comme je n'ai pas entendu le début de l'émission, je ne sais pas à quoi répond ce cri enthousiaste d'un auditeur. Bravo, bravo, bravo. Vive la guerre de libération nationale européenne.
Un autre auditeur lui répond, je crois, qu'on est des nuls.
Non, il dit pas ça. Il dit...
Non, pire, des nuisibles.
Je trouve que les propos qu'on entend ce soir sur RC nuisent à RC, à JMLP et à la droite en Galles. En général, il veut dire. Je suis écœuré, voilà. Au moins, à qui on ne nuit pas, alors?
Et c'est signé docteur qui?
Docteur Maboul.
Non, je ne sais pas qui signe ça, mais je ne sais pas pourquoi ça nuit.
Alors, félicitations d'être le premier, Serge de Becketch, à parler du meurtre de Julien Kemener sur Radio Courtoisie.
Ah bon?
Oui, on pourra dire que je l'ai fait d'une façon un peu légère, parce que je mesure ce que c'est pour les parents et tout, pour les amis de ce garçon. Mais il y a un moment où, je l'ai déjà dit plusieurs fois, le rire, c'est la politesse du désespoir. Quand on en arrive à ce degré de saloperie d'un régime et d'une société, on peut en sortir, Serge, que par le rire.
Vous n'êtes pas le seul à mesurer ce que ça représente. Les supporters, vous savez que les supporters de foot, c'est encore le spécialiste qui intervient, ont des rapports un peu tendus entre eux. Les supporters de Nantes, où le Paris Saint-Germain était attendu quelques jours après, avaient préparé une gerbe de fleurs.
Oui.
Et le préfet l'a foutu dehors. Là, ils avaient demandé une minute de silence. La Ligue de football l'a interdite.
Mais ça m'étonne pas. Écoutez, le milieu du foot, moi, il y a des années que je dénonce ce milieu parce que c'est véritablement l'incarnation de l'ordure mafieuse qui manipule des imbéciles. Voilà, c'est insupportable. Il faut en finir avec ce sport fric, ce sport qui pue, qui est pourri jusqu'à l'os, où les gars sont camés. C'est intolérable, quoi. Et je me suis fait enguirlander par ma petite femme tout à l'heure parce qu'on a mis à la une du Libre Journal, enfin j'ai mis à la une du Libre Journal, un dessin qui effectivement est pas très joli, qui représente un pied en train de hurler. Vous verrez ce que c'est qu'un pied qui hurle. Et la légende, c'est la suivante. Le sport consiste à déléguer au corps quelques-unes des vertus les plus fortes de l'âme, l'énergie, l'audace, la patience. Et c'est signé Jean Giraudoux, et j'ai ajouté écrivain comique. Parce que, qu'est-ce que vous voulez dire? Quand on lit ce genre de truc, le sport, c'est plus ça. Ça a peut-être été ça du temps de Giraudoux. Mais maintenant, le sport, c'est l'occasion pour des esclavagistes de réduire des gens en esclavage. Et curieusement, c'est encore les Noirs qui sont réduits en esclavage dans cette histoire.
Ouais.
Parce que tous ces gens sont manipulés. Quand vous voyez les équipes, les grands champions internationaux, qui sont pour la plupart des Noirs, qu'on maque littéralement avec des mannequins vedettes qui sont pas autre chose que des putes, il faut quand même arrêter de se mentir dans cette histoire. Écoutez, mais... ça vous plaît pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Victoria? Mais c'est la vérité. Est-ce que vous croyez vraiment que ces filles, elles auraient épousé ces types-là s'ils n'étaient pas milliardaires?
Pourquoi pas?
Bon, enfin, mais vous foutez du monde, vous rigolez, non? Les contes de fées, c'est bon pour les petites filles. Un milieu totalement pourri. Et de voir que des gosses, à qui on interdit d'être des militants nationalistes parce que ça ne se fait pas, se laissent prendre à cette saloperie et vont se faire tuer parce qu'ils sont contre telle équipe ou pour telle autre équipe, c'est à pleurer de tristesse. C'est à pleurer littéralement.
La consolation pour ces Noirs réduits en esclavage, forcés de se doper, ils y sont contraints, c'est qu'ils sont mis en esclavage par des antiracistes, ce qui est quand même plus cool Simon Le Gris qui vous fouette.
On va dire avec Churchill, no sport.
Puisque vous avez le micro Jean-Paul Chagues de Olmeta, vous consentez par signe à l'instant à nous dire à nous rapporter en deux mots, parce que là on bouffe toujours le temps à notre curé de choc, il ne faut pas exagérer. Donc en deux mots, confiez-nous vos impressions sur votre retour d'Allemagne via l'Autriche.
Eh bien, je suis allé à Cologne et à Bonn pour aller visiter deux musées. Je suis tombé à Cologne à un moment où je ne m'y attendais pas, un samedi soir. Enfin, je savais que j'allais
tomber
un samedi
de haut.
Soir. Mais je ne savais pas que c'était le carnaval de Cologne. Et là, j'ai vu ce qu'il y a de plus effrayant, c'est-à-dire 5 cm de vomi dans les rues avec les bouteilles cassées, etc. Les femmes du monde qui m'accompagnaient trouvaient ça délicieux jusqu'au moment où il y en a une qui s'est essuyée une canette de bière sur son vison pourri. Et comme elle sentait le chapisseux, elle était allée se réfugier à l'hôtel. Seulement, ce qui est fantastique, c'est qu'à 21h, quand on a sifflé la fin de la récréation, à 21h30, il n'y avait plus un bout de verre par terre, il n'y avait plus rien. Et je ne sais pas où étaient passés tous les gens qui dormaient dans la rue. Complètement ivres. Bon, ça, c'est...
C'est l'Allemagne.
C'est Blin, Helmut.
Voilà. Bon, je suis quand même repassé par Paris avant de repartir pour Vienne.
Là, c'est le bazar, j'espère.
Non, non. Où j'ai pris un bateau pour aller sur le Danube, qui m'a emmené jusqu'à Budapest et Bratislava. Et là, je dois dire que... Alors, je fais très vite pour ne pas voler le temps de personne, puisque j'essaie d'être courtois. J'ai eu la surprise de voir dans ces trois grandes villes, quand même, Vienne, Budapest et Bratislava, que les gens fument, que les gens ont des chiens. Eh ben, il n'y a pas une piste de chien le long des murs. Il n'y a pas une cigarette par terre. Il y a des grands cendriers à l'entrée des... Et puis, j'ai pas vu de dame voilée. Et j'ai pas vu de personnes un peu bronzées. Je pense donc qu'il y a encore quelques villes de la vieille Europe qui ne sont pas polluées.
Voilà. Donc vous êtes tombé de haut à Cologne, mais pas...
Oui, je suis tombé de haut à Cologne.
J'essayais de la placer tout à l'heure, mais comme vous réagissiez pas,
je suis parti dans...
Que moi aussi, je peux faire de l'esprit.
J'étais sur le Danube bleu.
Vous écoutez Radio Courtoisie. Serge de Beckech reçoit le révérend père Argouarche.
Bonsoir, mon révérend père.
Bonsoir, Serge.
Ça me fait tout drôle de l'appeler mon révérend père.
Il aurait dû dire monsieur le directeur.
Je suis encore jeune. Révérend, c'est quelqu'un de très âgé.
Il est plus jeune que moi, alors forcément. Dites-moi, vous savez que je suis très fier. Vous m'avez donné un sujet de fierté extraordinaire. C'est que je suis finalement le père putatif d'un livre. Ça fait des années que le père Argouarche nous raconte ici, mais aussi à moi, les histoires d'Oriomont.
Oui.
Et je lui disais toujours, qu'est-ce que vous attendez pour les écrire ? Alors, le discours habituel que vous connaissez, je ne sais pas écrire, je ne suis pas écrivain, patin couffin, etc. Et puis ça y est, il s'y est mis. Et il a fait un bouquin que j'ai lu, et qui est vraiment un bouquin formidable. Alors, on en parle quand même 5 minutes.
Oui.
Il sort quand, ce livre ?
Alors, il va sortir entre Noël et Pâques.
Voilà.
Mais bon, il y a eu une...
sortir un peu plus tôt.
Il y a une ou deux conditions.
Oui.
Il est en souscription.
Il est en souscription. Oui, ça y est, la souscription est lancée. Mais c'est un bouquin de souvenirs. Et c'est les souvenirs de Riomont à travers vous, à travers vos souvenirs à vous.
Oui.
Mais ça va plus loin que ça. C'est un bouquin un peu... Qui apporte un message à travers le récit de souvenirs.
Oui, hein? Parce que c'est vrai que en arrivant à Riomont, j'étais plongé dans la tradition, dans une vie religieuse, au contact d'un prêtre extraordinaire qui était le père Revet. Mais il y avait aussi la méthode pédagogique, un rêve qui est un ordre religieux. Il y avait beaucoup de choses et... Comme nous sommes toujours au combat, et un journaliste de La Voix du Nord, je crois, était le premier à parler d'un village gaulois qui résistait, alors qu'on était attaqué il y a déjà une vingtaine d'années, et on a toujours été attaqué, Riomont a toujours été attaqué. Et c'est vrai que, au fond, je me disais, mais on a donné une réponse à ces attaques, et l'ensemble de ces réponses très différentes suivant les attaques, eh bien, je dis pas que c'est pratiquement une stratégie de réponse à la subversion, parce que on est attaqué, bien sûr, sur notre patrimoine, on est attaqué sur l'éducation, on est attaqué sur beaucoup de sujets, et Riomont, qui est toujours au combat, eh bien, avec l'aide de Dieu, avec nos anges gardiens, avec ceux qui sont morts aussi par amour pour nous. Et je pensais à Dom Bourin, ce moine de Foncombeau qui avait un cancer et qui a offert toutes ses souffrances pour le village d'enfants. Et à travers tout ça, bien sûr, c'est le corps mystique du Christ qui vit. Et en même temps, le message, c'est de dire à ceux qui sont seuls, non, vous n'êtes pas seuls, il y a Riomont, c'est rien. Mais on est avec tous. Et il y a une valeur un peu, je ne sais pas comment dire, nationale dans l'exemple de Riomont. Ouais. Et le père Revet disait toujours, le créneau est plus important qu'on ne le croit. Et je crois profondément que c'est vrai. Au début, je me disais quand même, le père Revet, bon, à Riomont, c'est pas grand-chose, c'est fragile, on n'est pas des saints, etc., etc. Puis au fur et à mesure, Bon, je vieillis quand même un petit peu, et je me dis, et au fur et à mesure aussi que la décadence se fait plus violente, au fur et à mesure que le raz-de-marée nous submerge, je me dis, mais cette île qui est là, et qui est un promontoire, et un journaliste aussi a dit, un gauchiste a dit, Riomont n'est que le promontoire d'un continent englouti. Mais le père Revé était très fier de cette citation, et j'en suis très fier aussi.
Mais vous savez que Riomont commence à être un petit peu connu, petit à petit, ça devient quelque chose d'un petit peu, qui sort un petit peu de nos milieux habituels. Et il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est un signe d'espérance. C'est-à-dire que quand les choses vont mal et tout, ils se tournent par la pensée vers Riomont en disant, mais il y a quand même ça qui existe. Ça veut dire que tout n'est pas perdu. Et c'est quand même extraordinaire de penser que c'est, un endroit où on applique les méthodes de la tradition, tout simplement, qui reste la référence. Et j'écoutais l'autre jour, c'était à la radio, je ne sais plus quelle radio, probablement France Info, il y avait un reportage sur un groupe de gens qui s'étaient constitués en village, et qui faisaient la classe à leurs enfants, et dans le village, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de radio, ou peut-être une radio, mais enfin, ils vivaient comme ça. Les inspecteurs étaient venus pour contrôler le degré de qualité de l'instruction donnée aux enfants, et ils n'avaient rien pu faire, parce que les enfants savent lire, écrire, compter, exactement comme il faut à leur âge et tout. Et le journaliste disait, mais c'est effrayant, il ne savait pas qui était Zidane, et il ne connaissait pas la Star Academy. Alors, j'écoutais ça, je me disais, c'est quand même fabuleux, parce que, aujourd'hui, voilà, le critère de référence pour l'appartenance à la société citoyenne, c'est de savoir qui est Zidane. Autrement, on n'est pas vraiment un être humain, quoi. Et de jamais avoir vu la Star Academy. Or, bon, je sais qu'à Riomont, on sait qui est Zidane, parce que, hélas, il y a un culte du football à Riomont, enfin, qu'est-ce qu'on
vous savez, je voulais être footballeur, Serge.
Ben voilà, c'est ça.
Alors, Dieu m'a appelé.
Nobody's
parce que j'ai eu un coup de close combat et j'ai eu le nez complètement écrasé, je vous l'expliquais.
Oui.
Hein, il y avait une sorte de type immense qui m'a pris par derrière pour me faire un étranglement. Alors, j'ai eu tellement peur que je l'ai balancé. C'est un type qui faisait 120 kilos. C'était vraiment la surprise de ma vie d'arriver à faire ça. J'en reviens pas encore, hein. Je suis pas orgueilleux, mais j'étais très fier et je l'ai balancé devant tout le commando. Et effectivement, il s'est vengé après et il m'a appliqué sa main, il m'a donné un coup de poing sur le nez et toutes les cloisons nasales qui étaient écrasées. Et du coup, j'étais très bon en cross, je faisais dans les trois premiers, c'était 25e ou 30e. Et puis au football, j'arrivais. Au moment de tirer, je driblais deux ou trois types. Au moment de tirer, j'avais plus rien dans la savate. Parce que l'échange se faisait pas au niveau du poumon. Et du coup, au lieu d'aller vers le sport, le bon Dieu m'a appelé à autre chose.
Ouais, donc, ping-pong quand même.
Ping-pong, oui, j'ai joué énormément avec
grâce
des Asiatiques.
Grâce soit rendue à l'étrangleur.
Je faisais des coups un peu inédits en ping-pong parce que j'imitais les Asiatiques qui faisaient des sortes de coups très saccadés et puis en même temps je faisais le clown, parce que j'aime bien l'action psychologique.
L'athlète de Dieu, c'est Jean-Paul II. Vous n'essayez pas de le supplanter.
Il a laissé la place là pour l'instant. Actuellement, momentanément retenu à d'autres occupations. Alors, ce livre s'appelle Riomont, Passion et Résurrection, que je trouve un très beau titre, et il fait quand même 250 pages, ce qui n'est pas rien, minimum, hein, parce qu'il y en aura probablement.
Oui, il y a encore des chapitres qui sortent.
Il y a beaucoup de photos, oui, c'est parce que le père m'envoie régulièrement des chapitres pour les relire, alors à chaque fois il me dit c'est le dernier, et puis hop, il en vient un autre.
Est-ce que vous avez le temps de les relire,
Serge de Becquetch, oui, en nègre, c'est pas mal, je trouve.
Ah, je suis pas nègre du tout.
Ah
non,
bon,
non,
d'accord,
non,
vous relisez simplement.
Non, non, je relis, je dis, bon, ben ça, il faudrait peut-être le tourner un peu autrement. Mais c'est vraiment un livre passionnant. Il y a plein d'anecdotes. Alors, il y a des anecdotes marrantes, tragiques.
Il y a aussi du drame. Il y a quand même la croix.
Oui, il y a de la tragédie.
Il y a la croix. C'est peut-être trop important, d'ailleurs, dans le livre. Je sais pas. Je me suis posé la question.
C'est la vie.
Mais c'est la vie, c'est notre vie. C'est
on peut dire que l'ouvrage est préfacé par Jean Raspail, qui ne donne quand même pas sa signature à n'importe qui.
Non.
Il est déjà en souscription, vous l'avez dit.
Et la publicité pour la souscription est signée Serge de Becquetch, ce qui est pas mal, non?
Non, elle est signée SDB.
SDB.
Il faut 400 souscripteurs pour le sortir.
Parce que je vais expliquer à Goffman une chose. Un livre, les gens qui font des livres demandent de l'argent pour les faire. Ça me paraît bizarre, c'est comme ça. Et quand on n'a pas d'argent pour commencer, alors on vend le livre d'abord. Une fois qu'on a vendu le livre, on paye l'imprimeur. L'imprimeur, une fois qu'il est payé, vous donne le livre et vous l'envoyez au lecteur.
Vous avez même des imprimeurs qui se font payer très cher pour le défaire, votre livre.
Oui, ça, je connais. Oui. Oui. Voilà. Et donc, bon livre pour l'instant. Voilà. Une belle photo. J'ai bon, tout vu.
Quelquefois, je vous demande une note, Serge. Une fois, vous m'aviez donné une note très correcte. Donc, je suis content parce que je balise devant vous.
Intérêt, oui.
Acheter ce livre, c'est se faire le double cadeau d'une lecture enthousiasmante et de la certitude de participer à une œuvre de salut signée SDB. Bon, tout le monde salive, tout le monde a son crayon et son papier à la main. Alors, on envoie les détails de la souscription.
Oui, tant qu'à faire. Oui.
Voilà, alors, il faut que vous envoyiez... 30 euros plus 5 euros de port par exemplaire, donc, pour ce livre Riomont, Passion et Résurrection.
Non, excusez-moi, Patrick. C'est pas 30 euros plus 5 euros par exemplaire, c'est 30 euros plus 5 euros de port, quel que soit le nombre d'exemplaires.
Ah, très bien. Voilà une bonne nouvelle. Mais c'est pour ça que j'hésitais, parce que je me disais, bonjour la matraque, si c'est...
C'est-à-dire 35 euros pour un exemplaire, 65 pour 2, 95 pour 3,
etc. Parfait. Et alors, donc,
30 000, 5 euros pour
ce chèque,
1 000 exemplaires.
Vous le libellez à l'ordre de Association La Porterie. Adresse, l'adresse est la même, Association La Porterie, boîte postale 28, 62 801, Liévin Cedex, France, pour ceux qui nous écoutent à Tokyo ou à Canberra. Voilà, ben on le répétera tout à l'heure, je sais que...
Et puis,
Victoria,
vous pouvez également, alors ça c'est quand même une belle occasion, je prie de la noter avec beaucoup d'intention et de lui réserver au moins cette journée. Si vous ne connaissez pas Riomont, et franchement si vous connaissez déjà Riomont, il faut aller au village de Noël. Le village de Noël de Riomont, c'est quelque chose, ça fait partie des trucs de fou que les gens de Riomont inventent régulièrement. Alors, il y a les feux de la Saint-Jean. Alors, les feux de la Saint-Jean, ça, vous connaissez pas ça, vous, Goffman.
Ça fait pourtant de longues années que vous me promettez de m'emmener là-bas.
Bah, oui, mais
j'attends.
Promesse n'engage que ceux qui la reçoivent.
C'est dans le Nord. Il faut commencer par rappeler que Liévin...
C'est dans le Schnorr. Oui,
c'est dans le Schnorr.
C'est à 2 heures de Paris. Et alors...
J'ai vu deux fois.
Vous y êtes allé deux fois. Vous êtes allé au feu de la Saint-Jean, alors.
Oui, oui.
Saint-Michel, vous avez vu.
Ah, oui,
qu'est-ce absolument. Que vous en avez pensé
C'était merveilleux. Oui.
C'est incroyable.
Et en plus, j'étais avec mes enfants qui étaient encore un peu plus jeunes.
Ils ont construit le Mont Saint-Michel dans le parc. Mais moi, j'étais flabbergasté, comme disent les Anglais. Vous savez, vous êtes cloué par la stupeur. C'était inimaginable. Et donc, entre-temps, ils font tous les ans maintenant un village de Noël. Alors c'est un petit village avec des petites maisonnettes et dans chaque maisonnette il est vendu tous les petits objets dont on peut avoir pour Noël. Alors
marché de Noël.
Le marché de Noël, oui c'est ça. Alors c'est de la décoration, c'est des petits bouquins, des petits gâteaux, des petits bonbons, enfin qu'est-ce qu'il y a encore.
Alors il y aura deux nouveautés cette année devant la future église qui avance pas mal. Un mystère comme au Moyen Âge et puis au mémorial des scouts morts pour la France. Pour la première fois, le clan général de Senlis fera un spectacle pour évoquer nos morts. Ce coin-là était un petit peu dans le noir avant. Il faut faire venir toujours de plus de câbles électriques. Et c'est vrai que ça sera extraordinaire. Il y aura toujours la crèche vivante. C'est moi-même qui m'en occupe. Et puis, il y a tous ces petits spectacles de marionnettes, d'animation. Le chœur montjoie à Saint-Denis passe. Beaucoup, c'est très divers. On se promène dans un petit village du XIIIe siècle qui est animé, qui est éclairé. Et puis surtout, il y a cet esprit de convivialité. Tout le monde se retrouve. Quelquefois, il y a des gens qui ne sont pas vus depuis 5 ou 10 ans qui se retrouvent au village de Riomont.
Ça, c'est quelque chose... Il y a des histoires. Je reviens au livre une seconde. Dans le bouquin, il y a des histoires de retrouvailles entre des anciens de Riomont et les gens de Riomont aujourd'hui qui sont étonnantes, quoi. Notamment, il y en a un qui vous poursuit pendant je ne sais pas combien de dizaines de kilomètres avec
Ah oui,
tronçonneuse, c'est ça.
Non, il voit la Land Rover de Riomont passer dans un petit village de tout près de Soissons.
Ouais.
Et il voit à l'arrière de la Land Rover qui s'appelle Jeanne d'Arc parce qu'elle a été baptisée. Et il voit Scout de Riomont avec des grosses lettres d'or. Donc il poursuit la Land Rover, ouais, et il arrive à notre camp en faisant 10 km à pied, en demandant aux gens, vous n'avez pas vu une Land Rover passer? Donc il arrive jusqu'au camp, et là le soir il me dit, mon père, il faut que je vous fasse un cadeau, vous avez fait tellement de choses pour moi, c'est vraiment fabuleux, etc. Il avait les larmes aux yeux, et il s'appelle Amar, et le lendemain il a refait 8 km à pied avec une tronçonneuse, et il m'a remis cette tronçonneuse en disant, voilà père, c'est pour Riomont, j'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi.
Et le lendemain, la presse nazie titrait « Attaque à la tronçonneuse contre un camp de scouts ».
Par contre, cette histoire n'est pas finie, puisqu'il a une sœur qui est séquestrée depuis environ 40 ans en Algérie. Et je suis en train de faire des démarches, puisqu'elle a la nationalité française. Elle arrive à me faire passer un message à ses frères. J'ai mis en route un peu certain nombre de choses. Et je voudrais qu'elle puisse venir en France. Là, c'est vraiment un exemple. Elle a été... elle s'est mariée, enfin, obligée d'être mariée vers 12 ans ou 13 ans, emmenée en Algérie, et elle me raconte dans une lettre de 3 pages son martyre. C'est vraiment, et c'est la même famille, la famille Axas.
Voilà, ça c'est des anecdotes, parmi les dizaines d'anecdotes qu'il y aura dans le bouquin. Alors pour revenir au village de Noël, donc c'est le samedi 16 décembre, de 16h à 22h, donc c'est au village d'enfants de Riomont, rue Thiers à Liévin. Et si vous allez sur internet, vous allez à
riomont.net,
si on peut pas faire plus simple. L'entrée est de 2 €.
On peut pas faire plus net.
Oui, vous voulez dire quelque chose, mon père?
Oui, je voudrais dire simplement que c'est l'anniversaire du scoutisme en 1907-2007, l'anniversaire du jamboree de Moisson 1947-2007. Que nous avons voulu participer donc en tant que scout de Riomont et même affilié aux éclaireurs neutres de France au grand rassemblement qui aura lieu avec les scouts de France, les scouts unitaires, les scouts d'Europe, etc. Et que, en fin de compte, on est écarté des manifestations pour notre fidélité à la liturgie tridentine. Alors, ça c'est la réponse de Riomont. On fera 2 journées qui sont pratiquement des journées nationales. Groupant Riomont et tous nos amis et tous les scouts qui voudront venir. D'abord, le fin avril, on va défiler sur les Champs-Élysées, tout le groupe scout de Riomont. On est 500. On espère qu'il y aura d'autres scouts qui viendront. On va défiler sur les Champs-Élysées un samedi soir. Et puis, après, il y aura une grande journée le lendemain à Villepreux. Serge, je vous demande la primeur. Vous êtes invité, et je crois que vous êtes marqué d'ailleurs sur notre journal qui va sortir, qui s'appelle Citadelle de l'Espérance, pour participer à un carrefour où il y aura, j'espère, Philippe Maxence, qui sera présidé par Jean Raspail, où il y aura aussi Rémi Fontaine, Louis Fontaine, un certain nombre d'écrivains du scoutisme, pour montrer qu'on est toujours là, et que même si on est tout petit, comme le petit Poussé ou comme le petit David, on est toujours là face aux grands qui nous ignorent et qui ont une sorte de mépris envers nous.
C'est eux-mêmes qui décrètent qui nient la réalité de la fraternité scout, parce qu'à partir du moment où ils excluent, c'est des gens, si on leur disait vous allez exclure les scouts musulmans, les scouts protestants, les scouts israélites, ils porteraient des hurlements en disant mais c'est scandaleux et tout, et ils excluent pour des raisons qu'ils sont incapables d'expliquer d'ailleurs. Donc ils sont pas scouts. Donc vous n'êtes pas exclus. C'est aussi simple que ça. Moi quand je vois les scouts de France aujourd'hui se balader, je vous avoue que je suis pas très envie que
malheureusement il y a des pauvres gosses qui sont là parce qu'il n'y a rien d'autre.
Et quand on voit ce que sont devenus les scouts d'Europe après la façon dont ils se sont comportés dans l'affaire Cottard.
Les scouts d'Europe, il y avait une émission qui était prévue sur KTO où il y avait les scouts de France, les scouts d'Europe et d'autres présents, les scouts unitaires, et etc. Quand ils ont su que Riomont serait présent, et là je remercie le journaliste de KTO qui nous a invités, eh bien quand ils ont su que Riomont serait présent, les scouts de France ont dit non, on n'y sera pas. Et les scouts d'Europe ont suivi. C'est quand même quelque chose, en France, actuellement, de voir cette dictature, et on ne peut pas s'exprimer. Moi, s'il n'y avait pas Radio Courtoisie, où est-ce que je peux parler?
Si vous voulez, on comprend très bien ce qui se passe. Les scouts de France, on sait ce que c'est, on sait qui les tient, bon, il n'y a pas de mystère. Mais que les scouts d'Europe soient réduits à lécher les pieds, et je suis poli, des scouts de France, on sait pourquoi. Il y a une espèce de terrorisme qui s'est monté avec l'appui des autorités politiques. On a vu arriver ça quand...
Politique et religieuse.
Et religieuse, bien sûr. Bon, voilà, l'autorité religieuse, elle ne sert plus qu'à ça maintenant. Hein, ne sert plus qu'à justifier l'injustifiable. Mais l'autorité politique, moi je me souviens, quand ça a commencé, quand il y a eu une menace d'interdiction du scoutisme,
oui.
Hein, de suppression du scoutisme en France. Bon, il était évident que c'était inapplicable, qu'aucun ministre n'aurait eu, même ministresse, n'aurait eu le courage de faire ça. Mais le fait de lancer le message, de dire c'est possible, ça aboutit à une espèce de terrorisme, de panique devant l'éventualité. Et tout le monde s'est rangé tranquillement sous la bannière des scouts de France, puisque c'était les moins scouts de tous. Et c'est exactement ce que voulait le pouvoir.
Et vous vous souvenez que la petite voix de Riomont a parlé quand ils ont fait cette émission envoyée spéciale sur le scoutisme, où tout le monde a défilé, même les cadets de Hollindre. Eh bien, quand j'ai fait ma petite déclaration, j'ai quand même rappelé que Marie-Georges Buffet était en train d'installer des soviets pour supprimer le scoutisme de tradition, avec l'appui des scouts de France qui voulaient le labelliser. Et ça a été un moment très très fort, parce que à ce moment-là, on a dit on est prêt physiquement, on avait dit, à se battre pour défendre le scoutisme, et on a su après, hein, par les renseignements, que cette petite voix de Riomont, à Paris, ben on avait dit quand même, ils n'ont pas peur. Et c'est pas ça qui a fait reculer la machine, elle est tellement énorme, la machine qui est contre nous, mais c'est un petit gravillon de plus peut-être qui était là.
Et vous savez, il y a une preuve de la volonté malfaisante des pouvoirs politiques à l'égard de toute la jeunesse, la jeunesse de France. Elle réside dans une comparaison qu'on peut faire qui est très simple. Le même pouvoir politique envoie des inspecteurs pour surveiller la façon dont se passent les camps scouts. Est-ce que, par hasard, il y aurait bien du rouleau 4 épaisseurs dans les latrines pour que les enfants ne se griffent pas, etc. Est-ce que, par hasard, il n'y aurait pas une demi-heure de trop de conservation dans un frigo du kilo de carottes ? C'est très bien, on peut l'accepter, ça. Mais les mêmes autorités, quand il y a une rave party, elles envoient des médecins pour s'assurer que la drogue qui est distribuée dans les rêves parties est de bonne qualité.
C'est pour ça.
Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est plus facile de prendre de la schnouf, ou de la cocaïne, ou de l'héroïne, ou n'importe quelle saloperie qui tue des gosses, pour en graisser des gros pourris mafieux dans une rêve partie, sous la protection des gendarmes, avec l'autorisation du préfet, mandaté par le ministre de l'Intérieur, c'est plus facile de faire ça que d'aller bouffer une boîte de conserve qui est péremptée depuis 2 jours dans un camp scout en haut des Alpes. Quand on est dans un système comme ça, on se dit il n'y a qu'une chose à faire, c'est foutre ce système par terre. Oui. Envoyer en tôle, voire pire, les gens qui ont mis ce système en place. C'est la seule solution. Et on n'en sortira pas autrement. N'allez surtout pas croire que vous allez changer le système en votant pour un Sarko ou en votant pour une Ségolène. Ils en ont rien à foutre. Absolument. Ils sont dans le système jusqu'aux oreilles. Mmh. Si vous voulez changer ce système, il faut taper très fort. Il faut foutre en l'air ce système, le détruire de l'intérieur, et puis après on mettra de l'ordre. Tant qu'on ne sera pas arrivé à ça, c'est même pas la peine. Ils continueront à tuer vos enfants. Ils les tueront dans le ventre de leur mère avec l'avortement. Ils le tueront dans les écoles en les abrutissant de chocolaterie, de confiserie et de télévision. Et ils les tueront dans leurs activités sportives. Ils en feront des esclaves. Ils en feront des gosses abrutis. Et puis voilà, c'est tout. Et ils en feront des électeurs qui voteront encore une fois comme on a toujours voulu que les gens votent. C'est ça la réalité du... Alors, quand il y a des œuvres qui existent et qui essayent de lutter contre ça, que ce soit nos écoles ou que ce soit certains mouvements de jeunesse, mouvements scouts ou autres, il faut les soutenir au maximum parce que c'est la seule chance de s'en tirer.
Alors, la deuxième journée nationale, vous vous souvenez qu'on a fait une grande veillée où il y avait presque 1000 personnes quand on a eu le Gerver. Ça sera le 23 juillet au Gerver. Il y aura une grand-messe qui sera célébrée par un évêque de France qui nous fait l'honneur de venir célébrer la messe tridentine, un évêque en poste actuellement, hein, je ne donne pas son nom.
Non, et voilà, certains... Il y en a une centaine en France. Hein,
il y en a qu'un ou deux ou trois, je ne sais pas.
Non, mais des évêques en France, il y en a une centaine.
Oui, mais il en fallait une centaine comme celui-là, ce que vous vouliez dire.
Il en faudra une centaine comme celui-là.
Voilà. Et puis, et donc, Donc, voilà, ce sera très très important. Il y aura une procession, il y aura une grande veillée le soir, il y aura un grand jeu scout. J'espère que nous rejoindrons Europa Scout et les Scouts Saint-Louis. D'ailleurs, c'est pratiquement
Monsieur
d'accord.
Monsieur l'abbé, je vous propose d'arrêter là-dessus parce que c'est quand même un peu lointain et de plutôt répondre aux auditeurs qui demandent par exemple comment aller à Liévin en voiture. Donc, de revenir et de conclure.
Non, à Rayaumont sans voiture.
Et de conclure, oui. Sur le 16 décembre, hein, on va laisser le mois de juillet.
D'accord, mais c'était quand même important.
Vous faites bien, mais maintenant on va conclure.
Vous savez que ça fait 5 ou 6 mois que je ne suis pas venu à Radio Courtoisie. Alors je me suis rempli.
Personne ne vous en tient rigueur, mais vous avez récupéré le temps de parole que notre expert financier vous avait volé. Donc maintenant, vous concluez sur le 16 décembre. Et les moyens d'y aller, donc le nord, dans le Schnorr, sans voiture, en ballon dirigeable. Soyez bien précis, bien concret pour nos auditeurs qui veulent vous rejoindre le 16 décembre après-midi.
Sans voiture, Gare du Nord, le TGV, en 1h05, on arrive à Lens. Attention, Lens, patrie du football, hein. Lens Bollard. Et nous, on est à 3 km de Lens. On ira vous chercher à la gare. Si vous téléphonez...
Mais
c'est un ton viril d'un prêtre.
Vous cherchez à la gare, monsieur.
Mais ça n'a rien à voir.
Non, leur faites pas trop peur, quand même.
Comment je dois parler à Radio Courtoisie? Je dois être suave?
On ira vous chercher à la gare.
Mais je suis courtois en parlant comme ça.
On écrit là-dessus.
Donc, par le train, Gare du Nord, par le TGV, vous arrivez à Lens. Ding dang dong.
Bien.
Et là, vous avez des moines en kaki qui viennent vous chercher.
À la
gare.
Vous dites si vous nous téléphonez et je suis arrêté là.
Alors le problème, c'est qu'à Rayon, il n'y a pas toujours de standardiste. Moi, je vais donner mon portable. Est-ce que j'ai le droit de le donner? Je vais avoir tout le monde qui va m'insulter.
Il va me dire maintenant quand il va arriver à Rayon, venez me chercher. Allez-y, donnez-le,
votre mon portable.
C'est pour leur demander.
Non, mais je crois qu'il serait bien que ces personnes vous appellent avant de...
Oui.
C'est-à-dire...
Je donne le numéro de téléphone de Rayaumont, 03 21 28 32 09.
Mais ils peuvent écrire aussi.
Non, mais excusez-moi, mais là, il s'agit de la soirée. C'est à partir de 16h. Je pense qu'on doit pouvoir trouver quelqu'un qui sera de permanence pendant une heure ou deux au téléphone pour dire aux gens, on vient vous chercher.
Nous, on a des navettes qui iront à la gare pour chercher pendant tout l'après-midi.
Vous allez déjà à la gare de, vous m'avez dit quoi?
Lens.
Direct de Paris.
Ce sont les sang et or. Le maillot est rouge et jaune. Ce sont les sang et or.
C'est pas vrai.
Et on a les mêmes couleurs à Rayaumont.
C'est pas
vrai. Mais par hasard. C'est pas.
Parmi les gens que j'admire dans ce pays, il y a François Brignot, pour qui j'ai une vénération.
Footballeur.
Il y a le père Argouès, pour qui j'ai un immense respect.
Il y a aussi François Brignot.
Mais ça, je préfère, tant qu'à faire. Au moins, ça fait moins de bruit. Et puis, il faut tirer juste pour ajuster un cycliste.
Oui.
Bon. Alors, il y a le père Argouès, que j'aime beaucoup aussi. Profondément, mais footballeur, tu sais.
Mais c'est parce que c'est le football
que je ne déteste pas.
Vous savez pas ce que c'est que le football catholique. C'est qu'à la mi-temps, c'est l'abbé Glocareux qui m'a appris ça. À la mi-temps, on partait, toutes les deux équipes, 22 joueurs, on partait à la chapelle, à l'église de Mérigny, on allait faire nos prières, et puis après, on repartait faire la deuxième mi-temps.
Mais je me souviens, c'était ma joie de voir les curés avec la soutane roulée dans la ceinture, en train de cavaler avec leurs pantalons coupés à mi-mollet, après le ballon.
Tricheur.
Bon, on peut venir en voiture, bien sûr, aussi par l'autoroute. C'est quand même l'idéal de passer par l'autoroute. L'autoroute arrive direct à Liévin.
Alors, pourquoi va-t-on à pied, à cheval, en voiture et en train vers Lens et vers Liévin? C'est, disons-le une dernière fois, pour conclure ce chapitre, parce que samedi 16 décembre 2006, de 16 à 22 heures, le village d'Enfants de Rayaumont vous accueille pour un village de Noël construit spécialement et pour un marché de Noël non moins spécial où vous pourrez faire vos achats de Noël, en tout cas une bonne partie et une bonne action pour, rappelons-le quand même, soutenir, défendre un village qui s'occupe d'orphelins, d'enfants à problème avec beaucoup de dévouement, beaucoup d'énergie comme vous l'avez entendu. Voilà. on va remercier, donc on remercie le père Argouache. On espère qu'il reviendra bientôt. On rappelle aux auditeurs qu'ils sont sur Radio Courtoisie et qu'ils sont très bien sur Radio Courtoisie. Et puis, on fait quelques annonces. Victoria me refile étrangement, mais elle a ses raisons, qu'elle nous exposera.
Si vous vouliez ou pas, on les
ou pas. Voilà. Ah bah oui. Alors on veut qu'on s'est concerté.
Moi, donc, je suis pour la discipline.
Très bien, Victoria. Je vous remercie. Continuez. Donc j'ai consulté notre vénéré chef Serge Dacord pour qu'on annonce que le mardi, non, on va faire dans l'ordre chronologique, donc que le dimanche 17 décembre prochain à 16h45, la jeune philharmonie de la Seine-Saint-Denis, nul autre que le 9-3, et le pianiste soliste Vendry de Caen interprète Beethoven, la symphonie pastorale et la fantaisie chorale à 16h45, donc à Épinay-sur-Seine à Notre-Dame des Missions. Participation aux frais 10 euros. Alors comme des gens carillonnent pour demander à nos standardistes qui n'en peuvent mais comment y aller, c'est le bus 154 à Épinay-sur-Seine, je le rappelle, arrêt Signe d'Anguin, ou le RER ligne C direction Montigny-Beauchamp, station Épinay-sur-Seine, et bus 354, arrêt Signe d'Anguin. Bon, là, je trouve que j'ai vraiment été très dévoué, très complaisant. Alors, je passe sans remords à une autre annonce. Le même 17 décembre, si vous n'aimez pas la musique, donc, ah, mais non, vous pouvez enchaîner. Hein, le concert à 16h45 à Épinay, et à 20h à l'église Saint-Augustin de Paris 8e, un jeune prêtre, l'abbé Pierre-Hervé Grosjean, reçoit, entrée libre, reçoit gratuitement lycéens et étudiants pour débattre avec eux sur le thème « Aimer en vérité ». Mission impossible, point d'interrogation. Le 19, le mardi 19 décembre suivant, le même abbé Pierre-Hervé Grosjean reçoit les parents sur le même thème, aimer en vérité, comment aider nos jeunes à s'y préparer. Mais cette fois, c'est au 7 bis rue de la Bienfaisance, métro Saint-Augustin, 20h, 21h30, 21, voilà, conférence, 21h30, réponse aux questions. Contact 06 64 42 58 82. Comme vous avez effaré par mes gestes interrogatifs, Victoria, je vous demande devant tout le monde si vous avez des messages, des informations.
Ben, c'est-à-dire qu'il y a une annonce là, samedi prochain 2 décembre, de 15h à 18h30, Arthur Gohin dédicacera Lexique des mots exquis. Samedi prochain, toujours 2 décembre, de 15h toujours à 18h30, Char dédicacera Polo Story avec Alain Sanders, de droite à gauche, La France métissée, et Alain Sanders dédicacera Rappelez-vous à l'AMO, en anglais, à la librairie France Lire, 6 rue du Petit Pont, Paris 5e.
Voilà, c'est terminé pour les annonces, provisoirement. Et je ne cache pas notre embarras à nos auditeurs qui sont quasiment notre famille et qui ont le droit de savoir, peut-être pas toute la vérité, mais en tout cas une beaucoup plus grande proportion de vérité que les auditeurs des gros médias, à savoir que l'invité surprise va peut-être nous faire une blague et que l'événement considérable que nous attendions avec sa venue sur cette antenne va se solder par un événement encore plus considérable.
Encore plus
Serge de Becquetch, vous écoutez Radio Courtoisie. Est-ce qu'on est toujours bien sur Radio Courtoisie?
On est toujours bien sur Radio Courtoisie, oui. J'ai eu un des collaborateurs de la personnalité que nous attendons qui ne comprend pas que cette...
Qui apparaît à l'instant dans le studio. Il va falloir lui donner quand même une chaise.
Voilà, il va se mettre là.
Même s'il n'est pas blanc-bleu, il a droit à une chaise quand même.
Messieurs, voilà, asseyez-vous, je vous en prie. Alors, nous recevons, et ben, on peut vous le dire, ceux qui lisent le blog de Radio Courtoisie le savent, les autres ont la surprise, c'est Dieudonné. Bonsoir, Dieudonné.
Bonsoir.
Apparemment, vous avez l'habitude de fréquenter les mauvais lieux maintenant.
Je suis très curieux. Oui, effectivement, là, c'est la première fois que je me rends, évidemment, sur votre radio. Et c'est étonnant parce que pour parler de mon spectacle et puis m'exprimer maintenant face à la France, je suis sur Radio Beurre et puis Radio Courtoisie. Comme quoi, vous voyez, les choses évoluent, puis la France se mélange et puis les
Français. Voilà. Vous êtes le bienvenu.
Merci en tout cas pour cet accueil. Sachez que c'est assez rare aujourd'hui pour que je le note.
Moi, j'ai été très... Bon, on va expédier l'aspect, non pas politique, mais l'aspect médiatique actuel de la chose.
En traduisant d'abord votre allusion, hein, parce que mauvais lieu, vous voulez parler des BBR, donc Dieudonné, il y a des auditeurs qui ne savent peut-être pas que Dieudonné s'est rendu à la fête.
Ceux qui ne savent pas, ils sont probablement aveugles sur et muets et ils vivent au Kamtchatka.
On a beaucoup d'auditeurs au Kamtchatka qui nous suivent sur radiocourtoisie.com, Serge, vous le savez bien, faut leur dire, Dieudonné s'est rendu au BBR 06 il y a quelques jours.
Si ils suivent Radio Courtoisie, ils le savent donc. Bien, alors, donc effectivement, au BBR, on a eu la surprise, pour moi la bonne surprise, pour d'autres la surprise surprenante, puis pour un ou deux peut-être la mauvaise surprise, je sais pas. En tout cas, c'est pas trop manifesté de voir arriver Dieudonné. Alors, c'est vrai que on a un passé avec Dieudonné, hein, quand on est proche du Front National, qu'on a été, comme je l'ai été, l'ami de Stirbois, à Dreux, on se dit, oula, il va falloir qu'on fasse un effort de réajustement de nos critères d'appréciation. Hein. Mmh. Bon. En ce qui me concerne, c'était fait depuis un certain temps, pas du tout sur des bases politiques, mais je dois dire que... Je vais dire la chose comme je pense, hein. Je vous considère comme un des plus grands comédiens français actuels. Parce que... Oui. Pourquoi ça vous surprend, Goffman?
Oui, ça me surprend, je suis sans voix.
Serge McCordery, j'ai eu l'occasion de vous le dire aussi.
Oui, oui.
En allant au gymnase à chaque fois.
J'ai encore une expérience récente, je poste un vieux film pour vous, on va donner l'impression de parler du Moyen-Âge, mais j'ai revu deux fois, là, le clone.
Oui.
Et dans le clone, vous faites une chose qui est stupéfiante. C'est-à-dire que le personnage que vous jouez, au début, c'est un balayeur, un technicien de surface, comme vous dites, dans une entreprise, qui est à peu près totalement abruti, il faut bien reconnaître. Hein.
Carrément.
Et puis, il est, à la suite de l'histoire qui serait trop longue à raconter, il est investi par une créature électronique qui a été fabriquée par un génie de l'informatique. Et donc, qui va conduire ce corps qui n'est pas le sien, mais cette créature informatisée habite donc le corps du technicien de surface. Et là, il se passe quelque chose qui, sur le plan du jeu du comédien, est prodigieux, c'est que vous donnez l'impression, effectivement, d'être un corps totalement vide, enfin, qui est commandé par quelque chose qui lui est étranger. Et notamment, il y a un phénomène qui se passe, c'est que le regard ne suit pas les mouvements de la tête. Est-ce que vous l'avez fait exprès, ça?
Ouais, c'est vrai que j'ai étudié bien ce personnage-là, et effectivement, le regard avait son importance, et il avait un petit temps de retard, effectivement, sur
l'action. Ça, c'est vraiment frappant, parce que c'est complètement décalé quand on dit quelque chose. Le regard accompagne le mouvement et le propos, toujours. Mais si c'est quelqu'un qui est à l'intérieur du bonhomme et qui manipule le bonhomme en même temps qu'il... on peut imaginer que ça se passe comme ça. Et je trouve que vous le faites d'une façon...
Écoutez, ça me fait plaisir que vous ayez en plus mis le doigt sur un petit effet qui n'était pas le plus marquant, mais il fallait avoir l'œil. Mais c'est vrai que c'est un métier que j'aime beaucoup, et depuis quelques années, c'est plus difficile. En tout cas pour le cinéma, mais pour la scène, non, j'y suis tous les soirs, j'y prends vraiment beaucoup de bonheur. C'est mon métier, c'est ce que j'aime faire rire, entendre rire. Puis par rapport à cette visite du BBR... c'est vrai que moi, là où nous avons été des adversaires avec le Front National, très loyal. D'ailleurs, je dois dire que M. Le Pen l'a bien résumé. Et moi, j'ai découvert aussi dans ces combats et dans ce débat qui est tout à fait démocratique, une loyauté et des gens avec qui on peut parler normalement. Et c'est vrai que ça en a choqué plus d'un. Mais j'ai expliqué qu'en mandant là-bas au BBR, on m'avait prévenu, attention. Alors moi, j'ai grandi, je me suis battu. Vous l'avez dit contre Marie-France Stirbois, c'était pas Jean-Pierre à l'époque, mais à Dreux. Et puis sur certaines valeurs, on pourrait discuter et débattre. Mais en tout cas, nous sommes en France, nous vivons ensemble. Et je pense que dans ce climat aujourd'hui quasiment pré-révolutionnaire, il est important de taire un peu. On est français, on va vivre ensemble. On a plein de choses à se raconter, on a plein d'histoires, mais on a une perspective commune. On est là pour vivre ensemble. Et c'est ça qui, moi, le fait de diaboliser à ce point Jean-Marie Le Pen et les électeurs du Front National, ça m'est apparu comme quelque chose d'extrêmement mauvais et nocif. Très, à un moment donné, bon, c'est vrai que j'ai vécu une belle diabolisation aussi, qui m'a permis de prendre du recul. C'est vrai que sous les coups de bâton, c'est plus facile de comprendre. Mais je dois dire que aujourd'hui, ce qui m'apparaît le plus incroyable, c'est cette diabolisation. Et j'ai même cru comprendre que certains journalistes aujourd'hui retournent même cet événement en disant à Monsieur Le Pen, vous vous rendez compte, vous avez invité le méchant Dieudonné, vous qui étiez sur la voie de la réhabilitation.
Vous vous commettez avec Dieudonné. Écoutez, il y a un message. On a 36 messages qui pleuvent maintenant, mais j'en retiens. On soutient Dieudonné dans son action. Vous voyez, vous êtes là depuis 5 minutes et. On est simplement rappelé au fait qu'on a des milliers d'auditeurs de gauche. On le sait parce qu'on reçoit régulièrement des messages de reproche sur notre orientation politique. Et on sait qu'on a des milliers d'auditeurs de gauche grâce au mieux-disant culturel qui est le nôtre et que vous ne déparez pas ce soir. Je suis obligé de le reconnaître, même si je suis incompétent. C'est pour ça que j'étais sans voix tout à l'heure. Pour finir, je vous présente à vous et aux auditeurs le Marquis d'Olmeta qui a quand même été, je crois, vice-président de la Société des auteurs dramatiques. Non. Et donc, à ce titre, au théâtre tous les soirs pendant 30 ans,
et, pas président de tout,
et qui peut parler avec compétence.
Agent assermenté de la Société des auteurs, et je suis allé au théâtre, on va dire, les 5 fois par semaine, pendant 30 ans. Donc j'ai vu tous vos spectacles, compris les débuts à l'Amador, etc. Ouais. Et au tout début, je me suis dit, ben là, il y a quelque chose. Bon, le reste, après, pour en revenir à la diabolisation, ça me fait penser à ma vieille maman qui se plaignait de ses douleurs, et je lui ai dit, écoutez, bon, ça va. Puis un jour, j'ai eu des douleurs. Et ben j'ai su ce que c'était d'avoir des douleurs.
Donc, oui, alors, mais je pensais à ça quand Dieudonné Instant parlait, justement, il disait, quand on soit des coups de bâton. C'est vrai que quand on reçoit des coups de bâton, il y a deux attitudes. Hein. Ou on a l'attitude déjà de Stockholm, c'est-à-dire du type qui dit, bon, il y en a un qui a le bâton et moi j'ai le dos, ben, je vais me mettre du côté du mec qui a le bâton. Quoi. Et puis il y a l'autre attitude, et c'est ce que vous avez fait, moi je trouve ça respectable, de dire, si on me file des coups de bâton, moi je me mets du côté des gens qui reçoivent des coups de bâton. Parce que maintenant, je comprends ce qu'ils ont subi, et moi, je subis la même chose, et ça ne me plaît qu'à moitié. Et je trouve que c'est assez courageux de choisir, en dehors de toute considération idéologique ou autre, de choisir le camp de ceux qui sont bastonnés eux aussi.
Oui, j'ai compris aussi. Je n'avais pas vu grandi dans un milieu, on va dire, d'artistes, enfin plutôt, et avec ce discours antiraciste, ce chantage à l'antiracisme, que j'étais parfaitement victime, parce que je me suis aperçu que les racistes n'étaient pas forcément là où on l'était. Il y avait des associations comme SOS Racisme qui devaient gérer la question. Permettre d'évoluer favorablement, qui n'ont fait que gérer, instrumentaliser un sentiment qui est, en plus de ça, qui est stupide, c'est-à-dire que personne n'est plus raciste qu'un autre. En fait, c'est quelque chose qui est en chacun d'entre nous et qu'il faut combattre. C'est
quelque chose de naturel, disait Yannick Noah.
Oui, et puis
il faut combattre. Ouais. Une tendance naturelle. Faut
mais attendez, je voudrais qu'on me pose une question. C'est une question qu'on soulève jamais. Qu'est-ce qu'il faut combattre dans le racisme ? Est-ce que c'est la conscience qu'on appartient à des races différentes et que chaque race a ses qualités et ses défauts plus ou moins spécifiques, ses capacités, ses incapacités par rapport à d'autres choses ? Ou est-ce que c'est le fait de dire, bon, on n'est pas de la même race, donc ces gens-là, on va les liquider. Moi, je pense qu'un raciste, qui est un type qui fait le constat de l'existence des races, et qui dit, il y a des races différentes, c'est pas pour autant que je vais faire du mal aux autres, c'est pas pour autant que je considère qu'ils sont supérieurs ou inférieurs, je vois pas pourquoi on interdira à quelqu'un de penser ça. C'est un constat.
Quand vous promenez au Japon, on est obligé de constater qu'il y a une race différente, on n'a pas envie de leur casser la figure pour autant.
Oui, et puis la généralité est toujours délicate, c'est-à-dire que vous allez sentir une proximité avec un Japonais, un Africain, alors que votre voisin, vous n'aurez absolument rien à dire à lui dire, donc ça veut bien dire que l'esprit est c'est quand même quelque chose qui nous permet un rapprochement, une communication, une communion, voire qui va au-delà de cette frontière qui est toute relative. Même, c'est la généralité qui est compliquée. Et en plus, la France est un pays qui s'est construit c'est un carrefour sur le mélange. Et aujourd'hui, la France est face à des grandes orientations, des grands choix. C'est vrai qu'il y a un problème d'immigration. C'est vrai aussi qu'il faut parler de l'immigration et des racines de l'immigration, parce que l'immigration des personnes pose un problème, mais l'immigration des matières premières pour d'autres, de certains pays, pose un véritable problème. Donc c'est un problème qu'il faut traiter dans son ensemble. Je pense que les gens ne partent pas volontiers d'Afrique pour venir ici et finir dans les quartiers.
Ça aussi,
c'est une évidence. Et donc c'est pour ça que ce débat, il faut sortir du racisme et puis essayer d'aller à la base. Mais pour cela, il faut sortir des diabolisations. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi avec le grand diable, Jean-Marie Le Pen. Ouais, c'était carrément...
Alors, vous l'avez rencontré depuis Le Pen.
Alors, on s'est parlé. Oui, un peu, mais très peu. Mais je pense qu'on aura l'occasion
de... Vous avez rencontré des gens de son entourage, j'imagine.
Oui, tout à fait.
Est-ce que vous avez eu le sentiment, réellement, que vous étiez considéré comme un interlocuteur ou qu'on faisait du cinéma parce que vous êtes une personnalité publique et qu'on se disait bon, on va pas en plus lui montrer qu'on est qu'on voudrait bien lui mettre des chiennes aux pieds et l'envoyer aux Caraïbes, ou est-ce que vous avez eu un sentiment de gêne, de trouble, ou vous avez eu l'impression que j'avais en face des gens qui étaient plutôt sincères?
Non, je pense qu'on s'est rencontrés. Je pense qu'au profondément c'est une rencontre. Donc on sur plein de sujets il y a des divergences, c'est une évidence, mais il y a une courtoisie, une loyauté. Par courtoisie, c'est pas pour reprendre l'esprit même de cette chaîne de radio, mais je pense que c'est ça qui m'a plu, c'est-à-dire qu'on peut être adversaire mais se respecter. Et c'est pas ce que j'ai ressenti avec certains. C'est-à-dire que je me suis battu à Dreux longtemps contre le Front National. On m'a jamais tapé dessus. C'était vif, mais on n'a jamais tapé sur mes enfants. On m'a pas interdit de jouer mes spectacles. On m'a pas. C'est la première fois que j'étais face à la médiocrité.
Mais par la suite, quand vous avez...
À la vulgarité, c'est-à-dire que j'ai été effectivement confronté... Alors j'ai fait tout un tas de sketchs, et d'ailleurs j'ai toujours été étonné de voir le deux poids deux mesures dans le traitement de l'humour. Qui fixe aujourd'hui les limites de l'humour?
Oui, c'est ça, bonne question. Ouais.
J'ai fait des sketchs qui ont pu heurter ici, sur la chrétienté, sur l'islam, et puis j'ai fait un sketch, à un moment donné, sur un colon israélien, et là, badaboum, j'ai franchi la ligne impossible, et c'est ce deux poids deux mesures dans mon exercice et dans ma fonction d'humoriste. Je m'interroge aujourd'hui. Je dis alors à ce moment-là, soit vous n'avez pas été honnête, vous ne nous avez pas fixé les règles du jeu, soit vous nous dites voilà, il est interdit de traiter de ce tel sujet, soit c'est ouvert, nous avons une liberté d'expression totale et on peut s'exprimer sur tout.
En même temps, il y a un paradoxe formidable quand on voit les films de Woody Allen par exemple. Il y a des films de Woody Allen, notamment ce film dont le titre m'échappe, mais où il joue le rôle de quelqu'un qui prend le parti de tous les gens qu'il rencontre, et il finit par être nazi quand il est dans un...
Oui, Zelig.
Bon, Zelig, voilà. Il y a un épisode dans Zelig qui est prodigieux, enfin, il y a des mots dans Zelig qui sont prodigieux, d'humour qui dans la tête de n'importe, dans la bouche de n'importe qui d'autre, apparaîtrait comme des propos d'un antisémitisme insupportable. C'est-à-dire qu'il y a le mari qui dit à sa femme « Si tu continues à m'emmerder, je vais te mettre la tête dans le four à gaz. » Bon. Ouais. Si un comique français disait ça, enfin un comique catholique ou agnostique ou non-juif disait ça, ça provoquerait un cataclysme.
Ou franco-camerounais, c'est ça que vous
voulez dire. Franco-camerounais, par exemple. Ouais. Mais quand c'est un Woody Allen qui le dit, ça fait rire. Donc ça veut dire que la tradition de l'autodérision, elle est fondamentale chez les Juifs. Mais on a l'impression qu'il y a un moment où, en France en tout cas, on a tellement pris l'habitude de construire une barrière que là, non, ça on peut pas.
Je voudrais faire une incise. En 1950, à l'Orée du Bois, il y avait un comique qui se produisait en smoking, à l'époque c'était comme ça, qui était Jean Rigaud, qui était le premier à faire des onomatopées qu'a repris ensuite Coluche. Mais en 1950, Jean Rigaud arrivait sur la scène de l'Orée du Bois, il regardait dans la salle les dames en bijouté, en train de dîner, etc., avec les fourrures et tout le truc. Je dis bien en 1950, c'est-à-dire quelques années après la guerre, et Jean Rigaud se penchait, demandait la poursuite avec sur les gens, disait « Bonsoir, Madame Goldenboom. Bonsoir, Monsieur Schwarz, machin. Bonsoir. » Eh ben, dis donc, j'ai regardé le livre de réservation, Hitler, découveuse. En 1950. Ouais. Et il n'avait jamais eu d'histoire, M. Jean Rigaud. Jamais.
Ouais, mes bons amis.
Et il était socialiste, il faut rappeler quand même ça.
Oui, hein. Mes bons amis, il nous reste 2 minutes avant la coupure technique. Alors, en 2 minutes, avec Victoria, on balance quelques messages que vous écoutez bien les uns et les autres, qu'on commentera après la coupure. Monsieur de Bekech, votre haine d'Israël et des Juifs doit être vraiment puissante pour que vous accueilliez avec bienveillance un tel raciste anti-blanc.
C'est n'importe quoi.
C'est bien formulé. Dieudonné à Radio Courtoisie, c'est une publicité inespérée pour Courtoisie. La grosse presse aux ordres va être obligée de lever la chape de plomb qu'elle maintient sur notre radio pour dire que Dieudonné s'est fait inviter à cette radio de Cato et de Facho. Demain, il n'y en a plus d'un qui va avaler son café de travers. Alors merci qui ? Merci Serge de Bekech, merci Dieudonné. Troisième message, c'est génial d'avoir invité Dieudonné. Les gauchistes vont délirer. Cher monsieur Dieudonné, vous allez voir qu'une fois de plus, vous avez laissé en jachère beaucoup d'auditeurs de Radio Courtoisie qui vous sont favorables. C'est dommage. Cher monsieur Dieudonné, quand vous avez voulu vous présenter aux élections présidentielles, j'ai cru que vous étiez fou. Finalement, c'est Serge de Bekech qui est fou. 30 secondes pour un message de Victoria, un message d'auditeur. Victoria, avant la coupure.
Félicitations à Serge de Bekech d'avoir invité Dieudonné. C'est un homme qui a des choses à dire et qui a été beaucoup persécuté. Mille bravo à Serge de Bekech. Monsieur de Dieudonné, je suis du Front National et je suis très heureuse de vous entendre. Sur scène, il paraît que vous êtes formidable.
Ça, je confirme.
En plus, vous avez une maman bretonne comme moi. Amitié, une auditrice. À la fête, je vous ai serré la main. Un auditeur, jusqu'ici Radio Courtoisie était la radio de toutes les droites, ne serait-elle pas en train de devenir la radio de l'intelligence ?
Merci.
Une bonne question. Merci, la France n'est pas raciste, c'est un pays de missionnaires, elle l'a prouvé. Une autre auditrice, beaucoup de panache, Dieudonné est un chevalier. Et enfin une question, je tiens à saluer monsieur Dieudonné pour son incommensurable talent et à lui adresser mon modeste soutien. Il symbolise la culture invisible et son authenticité sera toujours reconnue des vrais gens libres de ce pays. Voici ma question. On la pose après la coupure, non ?
Oui. Allez-y, vite.
Vous êtes récemment rendu à la fête des BBR et vous êtes entretenu avec Monsieur Le Pen, pardon. J'aimerais savoir ce que ce dernier pense de certains de vos sketchs, de vos anciens spectacles, dans lesquels, il faut bien le dire, Monsieur Le Pen en prenait pour son grade.
Coupure technique.
De passer la soirée avec nous sur Radio Courtoisie à 21h tout à l'heure. Rendez-vous avec Claudio pour les soirées musicales. Au programme, le Sigurd d'Ernest Reyer, enregistré en 1972. À 22h, les musiques de films. Et à 23h, ce soir, Cécile Housset dans la rubrique des grands pianistes avec des œuvres de Tchaïkovski, Schumann en illustration. Tout de suite, la seconde partie du Libre Journal de Serge de Bekech en direct. Vous écoutez Radio Courtoisie, il est 19h30.
Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8. Pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 29 novembre 2006 de 18h à 21h, en différé jeudi 30 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en écrivant à contact@radiocourtoisie.com.
Vous ne rêvez pas, vous écoutez Radio Courtoisie et nous nous commettons avec le facho Dieudonné, mais qu'est-ce que vous voulez?
Et le facho de Bekech.
Voilà, et le facho de... Ah, mais vous êtes un facho petit pied à côté de ce monstre.
C'est le nouveau niveau.
Dont nous sommes également obligés, renonçant à nos traditions d'indépendance...
Parce qu'il est venu avec ses gardes du corps, on a intérêt à notre
truc. Oui, qui nous tiennent sous la menace en plus. Et puis, il nous reste la patte pour qu'on annonce son spectacle au Zénith. C'est bientôt le 18 décembre, donc Dieudonné présente dépôt de bilan au Zénith. Renseignements 01 43 38 06 99. Pour ceux qui ne peuvent pas attendre, il y a un DVD du même spectacle, 100 ans de... Ah non, c'est un autre spectacle, 100 ans de laïcité, oui, qui est sorti le 7-11. Et donc, comment on peut trouver ça, ce DVD, là, à la FNAC
Partout.
Il y a un champ de journaux aussi.
Bon. Alors, on a beaucoup de messages, bien sûr, et il y a un message de lecteur qui dit « Il se passe de grandes choses, Dieudonné Radio Courtoisie, Dupont-Aignan sur ici et maintenant. »
Dupont-Aignan, ça m'énerve.
Très bien, tant mieux.
Dupont-Aignan.
Voilà, alors, on a lu des messages de ce genre-là et d'un autre style, des messages d'approbation, des messages de haine. Donc maintenant, Serge de Bekech, Dieudonné, vous voulez bien les commenter, les discuter?
Je voudrais demander justement à Dieudonné de répondre à une question dont il y a eu un mot qui a été prononcé qui m'a paru extraordinaire, extraordinairement juste, c'est culture invisible. Alors, dans votre culture, quel est le poids de vos origines croisées? C'est un peu difficile d'exprimer. Je ne veux pas dire, est-ce que vous vous sentez plus camerounais que français, mais...
Que breton.
Que breton, pardon. Oui, bonne précision, merci. Mais oui, n'applaudissez pas trop, monsieur Jean-Paul Argouarche. Est-ce que le fait que vous ayez une mère bretonne et un père camerounais produit chez vous une espèce de mélange qui donne ce qu'on voit, c'est-à-dire cette richesse de votre capacité de jouer la comédie ou de jouer la tragédie, ou est-ce que ça n'a rien à voir?
Alors moi, je sais pas, parce que j'ai des frères qui ont exactement le même parcours, des caractères complètement différents. On a le même père, la même mère, et moi j'ai l'impression, au travers de mon parcours, de mon histoire, j'ai rencontré des hommes, des femmes et des gens. Alors j'ai eu la chance d'avoir dans ma famille des gens très attachés à la dignité et l'honneur, et c'est pour ça que, et dans les deux côtés, et je pense que ce sont des valeurs qui me c'est très difficile de poser des mots sur des choses aussi difficiles à déterminer, à définir, mais je crois que une grande partie des problèmes que j'ai pu rencontrer, c'est lorsqu'on a voulu toucher à cela, et je pense que ça n'a pas de prix, voilà, mais c'est tout.
C'est ce qu'on appelle l'esprit courtois au Moyen-Âge. Hein. C'est ça l'esprit courtois. C'est considérer que l'honneur individuel et la dignité, ce sont des biens absolument inaliénables et que, en face de ça, rien n'existe. Quoi. On est, une atteinte à,
ni l'argent,
à ces choses-là,
ni c'est la carrière, c'est ni quoi que ce soit. Et c'est vrai que j'ai été étonné de voir dans le milieu dans lequel je gravitais le manque d'honneur et de dignité et cette capacité de mensonge et de... Et c'est bon, mais en même
bien
temps,
au Moyen Âge et encore, on n'enterrait pas les comédiens dans les cimetières parce qu'on considérait qu'ils n'avaient pas d'âme.
Ouais. Donc. Et pour répondre à la question, en Afrique, au Cameroun, comme en Bretagne, j'ai vu des gens formidables et des gens étonnants, enfin plus fragiles et plus faibles dans ce domaine. Mais c'est pour ça que je pense avoir une ouverture d'esprit en dehors de ces genres de frontières. Je suis évidemment très attaché à la Bretagne parce que ma mère y est, toute ma famille y est. Je suis attaché aussi au Cameroun, même si là l'histoire de ce pays est plus récent, on peut dire plutôt d'une petite région, parce que tout a été découpé à un moment donné. Le Cameroun, ça ne veut pas dire grand-chose.
Bien sûr, c'est le cas de tous les pays africains.
Voilà, c'est ça. Mais il y a une petite région, les Béti, c'est une petite région qui, où effectivement, quand on m'apprend que mon grand-père, mon arrière-grand-père était enterré ici. Et encore une fois, c'est la nature humaine. Je l'ai découvert aussi bien dans un village breton qu'un petit village. J'ai retrouvé les mêmes personnes, en fait, mais avec, évidemment, sous un climat différent, avec une culture différente, mais avec les mêmes natures. Et c'est ça qui m'a le plus étonné. C'est dans ma double culture, je dirais que c'est cela. Même si j'ai grandi en France, c'est clair, et dans une tradition chrétienne, évidemment, Dieudonné, j'ai pas besoin de vous dire que c'est aussi.
Oui, j'allais dire que ce Dieudonné, d'où vient ce prénom?
Bon, c'est clairement le poids de l'évangélisation. J'ai une sœur qui s'appelle Félicité. J'ai grandi dans cette tradition. École chrétienne religieuse, enfin bon. Et donc, que ce soit en Bretagne d'ailleurs ou au Cameroun, c'était deux familles très attachées à.
Le père Argouarche pavoise à nouveau, mais plus discrètement cette fois.
Mais ça vous a.
Je suis ému.
Ça vous a permis un soir sur un plateau de télévision avec le comte de Paris d'avoir d'un seul coup un contact plus doux quand il vous a rappelé que c'était un de ses prénoms, Dieudonné. Ça a calmé le jeu à ce moment-là qui était un peu tendu.
L'humour, c'était tout petit déjà, ou vous étiez un sale gosse qui faisait rire ses copains?
Faisais rire beaucoup et j'ai beaucoup rigolé. J'avais un oncle qui était très drôle en Bretagne et je prenais plaisir quand j'allais en vacances. Il me faisait rire à chaque fois que je le voyais. Et c'est lui qui m'a donné envie de m'amuser comme ça. Et puis lorsqu'on est face à toute cette brutalité, toutes ces injustices qu'on peut reconnaître dans cette société, bon, le rire c'est quand même une façon aussi de transcender tout ça et de surmonter, de surpasser ces épreuves, parce que la vie nous en envoie quand même beaucoup. Et puis lorsque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est un peu attaché à des valeurs de dignité et d'honneur, c'est vrai qu'on est très très exposé.
Est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent intouchable, que l'humour profane risquerait de profaner.
Oui,
ce que vous interdisez.
Ce qui touche, ce qui touche à la dignité d'une personne,
voilà.
Profondément. On peut blesser si ça n'est pas directement. C'est-à-dire que si on fait un sketch qui va toucher, on s'en excuse. D'ailleurs, moi, je ne dis pas que dans les sketchs que j'ai faits, je n'ai pas pu provoquer, malgré moi, des gens, et j'en suis vraiment et profondément désolé. Mais l'humoriste, le bouffon à la course, c'est celui qui va toujours un peu plus loin, qui va provoquer, et en même temps, c'est un baromètre de cette liberté d'expression. Il a son rôle aussi. Maintenant, il n'incarne pas la raison. Il est là aussi pour apporter de la légèreté et puis à fixer certaines limites de cette liberté d'expression. C'est pour ça que l'humoriste, il a un rôle important depuis toujours. En plus, dans un pays de tradition où le bouffon avait aussi sa place à la cour, où il était celui qui allait révéler quelques vérités bien senties.
Serge, je pense qu'il ne faut pas laisser croire que cette invitation fait l'unanimité et lire quelques messages désagréables.
J'ai l'habitude.
Et même très désagréables. Pensez-vous vraiment n'avoir jamais atteint la dignité? Alors, je me précipite là parce que c'est ce que vous étiez en train de dire. Hein. N'avoir jamais atteint la dignité et l'honneur de Jean-Marie Le Pen ou de Marie-France Tjerbois, avez-vous des regrets? Et une question encore plus sèche, enfin une une remarque de Cherbourg, une dame de Cherbourg. Monsieur Dieudonné est un parfait opportuniste. Il vient de nous expliquer le contraire, donc elle ne le croit pas. Et je ne comprends pas Serge de Becquet, je suis désolé. Donc il y a des auditeurs qui ne comprennent pas et des auditeurs qui objectent.
Moi, je voudrais donner une réponse, si vous permettez, à la deuxième. Monsieur de Becquet, qu'est-ce qu'elle dit exactement? Je ne comprends pas Serge de Becquet. Je viens de vous donner une des clés pour aider à comprendre le fait que Dieudonné soit là. Cette clé, c'est que je crois d'abord qu'on peut certainement faire énormément de reproches à Dieudonné. D'abord, tout le monde peut faire des reproches à tout le monde, mais certainement pas celui d'être opportuniste. Ou alors, ça voudrait dire que c'est un imbécile vraiment en qualité supérieure. Parce que en guise d'opportunisme, ce qu'il a fait depuis quelques mois, on peut dire que c'est pas totalement... ça n'obéit pas exactement aux critères d'opportunisme habituel. La deuxième chose, c'est que moi, je me sens au moins un point commun avec Dieudonné, c'est dans cette ce qu'il vient de dire il y a deux minutes, là, à propos du rire comme seule solution en face de certaines situations qui sont tout simplement pas vivables. Et je l'ai dit avant que vous n'arriviez, on avait parlé du drame de la porte de Saint-Cloud, là, et j'en ai parlé d'une façon un peu légère, j'ai dit, il y a des choses dont... quand on atteint un tel degré de désespoir, de laideur, de stupidité, eh bien, on est obligé de s'en sortir par le rire, parce qu'autrement, on meurt, tout simplement. Et au moins, je crois qu'on a ça en commun. C'est que le rire, c'est une espèce de porte de secours, la politesse du désespoir, on dit ça depuis longtemps, c'est une espèce de sortie de secours, parce qu'autrement, on explose, on devient fou. On devient ou Hitler, ou Mao Tse-tung, ou je sais pas qui. Alors, la meilleure solution, c'est quand même de se marrer, quoi, parce que... et surtout de se marrer en voyant le ridicule des pantins qui prétendent nous dicter ce qui se dit, ce qui ne se dit pas, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, toujours par référence à des choses qui se sont passées il y a 40 ans, 30 ans, 25 ans, 20 ans, et jamais par référence à ce qui se passe aujourd'hui.
Olmeta.
Ben, je voulais simplement dire que quelqu'un dit, est-ce que, après, Marie-France Tirebois, mais d'accord, tout ça, mais est-ce que c'est pas bien, un moment ou un autre, de venir se tendre la main les uns et les autres, tendre une pipe?
Moi, je crois que c'est quand même.
Vous écoutez Radio Courtoisie, Serge de Becquet, je reçois pour 20 minutes encore à peu près Dieudonné, Madame Bala, le comique bien connu, et aussitôt, il y a des auditeurs qui envoient des messages positifs. Hein, félicitations Serge de Becquet, aussitôt que je viens de lire des messages négatifs. On vous soutient à fond, mais on ne le fait pas exprès, hein, c'est ce qui arrive au fur et à mesure. On vous soutient à fond pour avoir invité Dieudonné. Je suis allé le voir, c'est une dame qui n'est pas d'accord avec celle de Cherbourg. Son spectacle est très bon. Un bémol seulement, il a fait une critique sur le catholicisme, mais pas sur l'islam. Et un autre auditeur nous dit, pour prouver s'il en était besoin que les auditeurs de Courtoisie ne sont pas obtus, Monsieur de Becquet recevant Dieudonné, celui-ci doit sans doute être quelqu'un de bien. Alors voilà, celui-là nous fait confiance. Une seule question, comment interpréter ces sketchs vis-à-vis de l'armée française en Algérie?
Bon, alors parlons de ça, justement. Les sketchs...
Il y a un pied noir, hein. Vous êtes entre un curé et un pied noir, là.
Les sketchs anti-catho, les sketchs anti-armée, tout ça, bon, ça fait partie de la grande tradition
C'est très mal quand même.
De l'humour français. Mais hier soir, je regardais KTO, la télévision, il y avait un petit curé philosophe qui disait des choses fort intéressantes. Et il disait, vous savez, l'autre jour, je regardais un prêtre de ma communauté qui était en train de lire le dernier album des dessins de Plantu, et il éclatait de rire devant un dessin qui était un dessin qui se moquait des islamistes. Et puis, quatre pages plus loin, il y avait un dessin qui se moquait des catholiques, et il dit, ah, ça c'est quand même inadmissible. Et alors, il disait ce petit curé, je lui ai dit, non, tu peux pas rire quand on se fout de la gueule des islamistes, et protester quand on se moque des catholiques, parce qu'il faut admettre que l'humour, c'est pas toujours fait pour faire plaisir à tout le monde, hein. Alors, il y a une différence effectivement entre l'humour, on peut dire, et la profanation, et je crois que vous l'avez dit encore.
Moi, je pense que tous mes personnages, que ce soit sur la religion ou sur l'armée, je pense que les personnages que j'interprétais ont toujours été... je les ai humanisés. Alors bon, ils avaient peut-être des choses à dire qui étaient un peu caricaturales, étant le fruit aussi d'une éducation et d'une culture qui était très sous pression de ces histoires d'antiracisme. J'ai été leurré et berné quand même par ce combat longtemps.
Mais vous-même, quand vous étiez gosse, vous avez souffert de ça?
Oui, mais pas tant que ça. La France est un pays où finalement, bon bien sûr, il y a des difficultés quand on va chercher un logement, un emploi. Il y a parfois quelques, mais non, ça se construit avec le temps. C'est sûr que ceux qui sont responsables sont pas forcément ceux qui sont montrés du doigt. Le racisme est certainement aussi parfois instrumentalisé, entretenu. Moi, je dirais que pour répondre à la question sur l'humour, et c'était important parce que je pense que j'ai toujours été... Il y avait une question tout à l'heure sur M. Le Pen. J'ai peut-être été, et c'est peut-être le seul d'ailleurs, parce que c'était de bon ton de le faire, de franchir la limite de l'injure, une fois ou deux, pas beaucoup, parce que c'était pas mon registre. Parce que poussé par le système pour le faire, ça... Et en rencontrant l'homme aujourd'hui, je dois dire que non, je le regrette profondément, je m'en excuse parce que ça n'était parce que c'était une autre époque. Voilà.
C'est quand même extraordinaire parce que
Moi je suis scié parce que l'opportuniste Dieudonné, il a des couilles au cul, je m'excuse de dire ça sur une radio catholique. Mais vraiment, chapeau. Des messages, Victoria ?
Oui. Alors, félicitations toujours à Serge Lebecq d'avoir invité M. Dieudonné et félicitations à M. Dieudonné d'avoir eu le courage de se remettre en question. Avouer qu'on s'est trompé, c'est une preuve d'intelligence et d'ouverture d'esprit. Les gens de bonne volonté ne seront pas de trop en se serrant la main pour sauver la France. Un auditeur, pour pouvoir serrer la main d'un ancien ennemi, c'est le privilège des hommes d'honneur.
Eh ben voilà. Ce que j'ai dit.
Dieudonné au Libre Journal de Serge Lebecq, c'est énorme et symbolique. Les nationaux sont des nationaux, pas des gros bourrins racistes, nous dit un Lionel. Votre oncle a une question insidieuse. Votre oncle de Bretagne plein d'humour ne s'appelle-t-il pas Jean-Jacques Perroni? C'est tout pour moi, pour le moment.
C'est vrai qu'on parle du spectacle maintenant, parce que... D'abord, première question, est-ce que vous avez eu du mal à le monter cette fois-ci? Est-ce que vous avez eu du mal à trouver les...
Oui, le Zénith, quand même.
Les producteurs,
oui,
les salles,
etc. C'est vraiment... Ça devient de plus en plus difficile. Le boycott et la censure se fait de...
Ça continue, donc.
C'est-à-dire que, oui, même pour afficher, ça devient compliqué. Non, on vit une période difficile, mais bon, on se bat et voilà, on espère que les choses vont s'arranger et elles s'arrangent. Donc, je serai à ce Zénith. C'est sûr que... Dès que j'ai l'occasion de le rappeler, c'est le 18 décembre et c'est vrai que c'est difficile de remplir une salle de 5000 personnes, surtout un lundi, mais je pense que nous allons y parvenir. On va rire ensemble pendant une heure et demie et je pense que autant on peut être diabolisé, autant quand lorsqu'on se retrouve dans une salle comme ça autour d'un postulat qui est le rire, ça rend les choses et la rencontre assez magique.
Alors ce spectacle s'appelle naturellement le Goffman qui
dépôt
est un
dépôt de bilan.
Dépôt de bilan, voilà. Il part sur quel
C'est d'ailleurs que j'ai été poussé effectivement dans une telle situation où je me suis interrogé sur le bilan de toute cette j'ai pris ce sujet. Ce thème qui est un sujet intéressant, c'est une situation de comédie étonnante, le dépôt de bilan. Puis alors le bilan, vraiment au sens très très large du terme, puisqu'il y a un sketch qui résume bien à lui seul, c'est à un moment donné un sketch sur le dépôt de bilan de certaines espèces animales. C'est-à-dire que c'est des espèces animales qui vont, qui rencontrent l'humanité et un bureau avec une personne qui répond aux questions et qui reçoit un rhinocéros et qui lui explique que bon, vous êtes là depuis 1 million d'années, c'est le jeu de l'évolution, vous partez, etc. Je ne peux plus rester.
Et alors, qu'est-ce que
le rhinocéros se défend. Il dit, mais j'ai des enfants. Il dit, bah oui, mais qu'est-ce que vous avez fait en 1 million d'années? Vous avez mangé des feuilles, vous êtes roulé dans la terre, avec une corne au bout du nez. Est-ce que vous croyez que c'est sérieux? Et au travers de ce postulat, on s'amuse vraiment pendant une heure. Et puis plus largement, je parle des grandes inspirations de les plus grandes entreprises de l'humanité qui finalement souvent se finissent tragiquement. Je parle même de la fin de la vie de Jésus. Comment une inspiration comme celle-là a pu terminer dans autant de violence et autant de... Dans les plus belles choses peuvent finir parfois... Mais je pense j'ai grandi dans cette tradition, mais pour toutes les religions, je pense que c'est exactement... Comment se fait-il que la fin, ça se termine comme ça, les plus belles choses, quoi.
Est-ce que vous êtes un religieux? Est-ce que vous êtes croyant? Ou est-ce que vous croyez en quelque chose?
Non, j'ai grandi... Alors moi, j'ai une relation qui une dimension artistique qui me pousse à avoir un maximum de libre pensée. C'est c'est ce vers quoi je tends. Je traduis, moi, puisque j'ai grandi dans cette tradition chrétienne, le message du Christ comme un message de libération je pense qu'il ne se reconnaîtra pas forcément dans un cadre aujourd'hui aussi rigide que celui d'une religion et d'un dogme religieux. Bon, je le vis comme celui comme ça. Donc j'ai ma culture est une culture chrétienne, c'est évident, mais ma perspective, c'est vraiment, elle est universelle et qu'elle elle se veut en dehors de ma conscience. Je pense pas pouvoir envisager même le voilà, à la fin de mes jours, ce que cette immensité représente.
Radio Donnée, sur Radio Courtoisie, chez Serge de Bekech, pour 10 minutes encore. Donc je vous propose, Serge, de donner 3 derniers messages pour que la conclusion, quand même, vous appartienne à vous et à votre invité, dont 2 très désagréables. Et je pense que c'est important de lire les messages désagréables. Oui. Bon, on en a balancé beaucoup, qui étaient grossiers, qui étaient trop désagréables, qui étaient gênants, mais parce que nous-mêmes, on est
un
tout...
Un qui était voilà. Carrément gênant, hein, oui, donc... Faut pas charrier non plus.
On en a tout le temps.
Voilà. Les idiots habituels. Mais c'est important parce de lire ces messages désagréables et agressifs parce que bon, nous-mêmes avons-le. On est ému, on est troublé. En un quart d'heure, un homme que j'avais aimé haïr pendant tant d'années me désoriente complètement. Même si je ne suis pas aussi extrémiste que cet auditeur. Bon, donc on termine avec les messages, avec ces 3 messages-là. On est bien d'accord, n'est-ce pas, Victoria? Et ensuite, c'est Serge et Dieudonné, son invité, qui conclut en 10 minutes. Cette émission me donne la nausée, où l'on flagorne un individu dont la haine ne vise pas que les Juifs, mais tous les Blancs, et qui sont plus Blancs que les Arabes, si je comprends bien, j'ai appris quelque chose ce soir, et qui s'applique à jeter de l'huile sur le feu dans les banlieues. Pauvre droite nationale qui, par haine des Juifs, donne la parole à ceux qui s'appliquent à détruire notre France en s'alliant à l'islamisme. Deuxième message, allez, encore un message méchant, je garde le gentil pour la fin. Monsieur Dieudonné se moque dans ses sketchs des chrétiens et des juifs, mais jamais des islamistes. Donc le plaidoyer de monsieur de Bekech en faveur de cet humoriste ne me convainc pas. Dernier message, complètement d'accord. Alors on tourne à 180%, complètement d'accord avec Serge de Bekech. Dieudonné a beaucoup de courage et c'est un homme libre. Maintenant, débrouillez-vous.
Mais c'est vrai que vous n'avez jamais fait de sketch sur les islamistes.
Je vais même vous dire que l'un des sketchs qui a été le plus facile à jouer sur France Télévisions, c'est un sketch sur le mollah Jean-Christophe.
Oui, c'est ça, bien sûr.
Le briefing technique des attentats du 11 septembre. Où je m'interrogeais sur cette promesse faite à ces pauvres gens, aux 1000 vierges. Partant de cette promesse des 1000 vierges, je me disais, mais comment on a pu livrer une telle promesse? Comment, je me suis interrogé sur un personnage qui était le mollah Jean-Christophe, qui faisait le briefing technique et qui promettait à un moment donné dans son discours 1000 vierges. Et il y a un des kamikazes qui disait, mais on pourrait pas avoir des garçons. Et alors là, ça crée un doute. Alors, non, mais pour dire que c'était pas forcément politiquement très correct. Et j'avais une petite polémique, mais bon, ça n'avait pas.
C'est ça. Donc ce message était nul et non avenu. Oui, je sais pas pourquoi vous nous en avez infligé à la lecture, mon cher Goffman.
C'était pour avoir une réponse.
Ah, voilà. On a la réponse.
Moi qui ai vu tous les spectacles depuis le début, je te l'aurais dit.
Oui. J'avais retenu le mollah Jean-Christophe.
Ah, oui, ça,
Donc revenons au spectacle là, qui se passe.
Les messages continuent à pleuvoir, mais on a dit que c'était fini. Hein. Arrêtez, on n'en peut plus. On n'a pas la place.
Revenons donc au Zénith. Ça se passe à partir de quand?
Alors c'est le 18 décembre. C'est une soirée spéciale. C'est vrai que c'est très difficile et très lourd à produire, mais on tenait à le faire parce que c'est vrai que malgré le boycott, alors je joue dans une petite salle. En règle générale, c'est le théâtre de la Main d'Or. J'y serai d'ailleurs la semaine prochaine, mais pour un autre spectacle qui démarre là, une sorte de best-of de tous les sketchs que j'ai pu faire. Mais le 18, c'est vrai que c'est une soirée importante, et face au boycott, c'est vrai que la mobilisation est difficile à organiser parce que les gens ne sont pas au courant. Mais en tout cas, ce qui sera étonnant, et vous êtes invités tous ceux qui sont ici à venir, vous allez voir le mélange qu'il y a dans cette salle, et c'est ça qui est étonnant, et c'est à mon avis intéressant qu'en France aujourd'hui il puisse y avoir comme ça des dynamiques. je ne suis pas le seul évidemment, mais des dynamiques de réconciliation nationale. Et arrêtons de diaboliser les uns et les autres. Il y a dans les quartiers, dans les cités, des jeunes gens qui sont prêts vraiment à serrer la main à des gens du Front National. Et c'est exactement. Et je ne comprends pas qu'il y ait eu cette diabolisation de part et d'autre et qu'on se soit servi encore une fois de ces jeunes, pour beaucoup souvent, de ces jeunes de banlieue comme des tirailleurs sénégalais face à qui un diable montré comme. C'est pour ça que je pense que cette instrumentalisation du racisme a causé des torts en fait à tout le monde.
Moi, je remarque une chose, c'est que au moins 4 fois au cours de votre intervention là, depuis presque une heure, vous avez insisté sur cet aspect de la question, c'est-à-dire sur le fait qu'on est dans une situation qui est, vous dites, pré-révolutionnaire ou pré-conflictuelle, gravement pré-conflictuelle, et que il suffit d'observer ce qui se passe pour voir que il y a des gens qui ont tout à fait intérêt à ça,
ouais, c'est
sûr. Et qui poussent à ce genre de choses.
Tout à fait.
Je crois que ce qui s'est passé à Porte de Saint-Cloud, ça fait partie de ce cirque-là. Maintenant, pourquoi ils le font? Il y a certainement plusieurs raisons. Il y a certainement une raison plus forte que toutes les autres, c'est la situation électorale, enfin la situation préélectorale. Et c'est évident que les gens qui tiennent le pouvoir aujourd'hui, ils ont tout à fait intérêt à ce que l'agitation soit telle, que c'est les urnes soient l'expression de la peur.
Voilà. Qu'on se retourne vers ceux qui sont au pouvoir.
Et ben voilà, on change pas de cheval au milieu de la bataille. Et donc, je crois que ça, cette espèce d'excitation permanente des communautés les unes contre les autres, elle a pour objectif d'amener les gens à se conduire d'une façon sage. Hein. C'est pas le moment de voter Le Pen, vous comprenez, voilà. Ou c'est pas le moment de voter qui que ce soit d'autre, d'ailleurs. Mais pour ce qui concerne les autres, ça ne me viendrait pas à l'idée. Mais... voilà. Mais,
Le Pen ou rien.
Une question encore, non pas de politique, mais d'actualité. Vous aviez effectivement fait miroiter le projet d'une candidature, et puis vous avez renoncé assez vite. Quand Coluche a fait la même chose il y a quelques années, on avait dit que Coluche avait été menacé, qu'il avait eu peur, et qu'il avait renoncé à cause des menaces qui étaient proférées contre lui. Est-ce que vous avez eu des menaces, vous ?
Moi, j'ai eu pas mal de menaces, des agressions même physiques, hein, puisque je me suis fait agresser mois d'octobre avec mes enfants. Enfin, ouais. Encore une fois, par respect pour tous ceux qui se battent et qui se sont battus, bon, ça va, tout s'est bien passé, je veux pas jouer les victimes, c'est pas mon genre. Mais c'est clair que les pressions étaient énormes. Et j'avais envie de recentrer mon énergie sur le spectacle, parce que je pense que c'est ce métier qui me plaît et c'est ce que j'ai envie de faire, et c'est comme ça que je pensais être le plus efficace, d'autant que la collecte des 500 signatures, c'est vraiment un parcours du combattant. D'ailleurs, si nous allons vers une autre nouvelle constitution, c'est vrai que ce serait bien que sur ce point-là, ça puisse changer, que ce soit peut-être...
C'est un invraisemblable scandale, c'est le retour au suffrage censitaire planqué, enfin c'est une honte, mais...
C'est le contraire du suffrage universel. C'est le contraire de ce qu'a voulu
Davos. Et le contraire du suffrage individuel secret, je veux dire. Parce qu'on part du principe, si un maire dit, oui, je signe pour Tartampion, naturellement, tout le monde peut en inférer qu'il va voter Tartampion, donc les seuls Français dont on va connaître le vote sont les maires de France.
C'est
de la folie, leur truc. Et qu'il n'y ait pas un Français qui se dresse contre ça autrement que par le verbe. Enfin, moi, je sais pas. Il y a des moments où je trouve qu'il faudrait quand même sortir les fourches. J'ai dit les fourches, hein, j'ai pas dit les fusils, vous avez remarqué. Hein.
Non, mais je pense qu'on est nombreux aujourd'hui en France à avoir le sentiment d'une grande, grande, profonde trahison. Et à gauche, une profonde trahison, notamment dans certains quartiers où cette instrumentalisation du racisme, cet épouvantail de Le Pen, ça a tenu très fort jusqu'en 2002, là où ils ont réussi une mobilisation exceptionnelle. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis? Et depuis, ça a été une piste de bobsleigh, la descente. Là, ils sont descendus jusqu'à où? Et nous verrons bien, mais en tout cas, le manque de remise en question après ce non à la Constitution européenne, enfin ce manque de conscience que le peuple grandit, vieillit, et il y a une maturité qui est en train d'arriver, et je ne sais pas si on peut parler de
de génie populaire ou de génie français, mais il se passe quelque chose qui leur échappe.
Et le peuple français, comme rentre-en-plan, il sent confusément quelque chose.
Je le sens, et je pense qu'on est nombreux, et je pense que c'est pour ça que tous ces rapprochements fraternels sont importants aujourd'hui, parce que la division va être une stratégie, et qui paiera le plus lourd tribut de cette crise ? C'est toujours le peuple. Et c'est pour ça qu'il faut que nous ne soyons pas, qu'ils s'entretuent entre eux, à l'Assemblée, pourquoi pas, oui. Mais...
Même leur fournir des munitions.
Voilà, qui s'enferment là-dedans, et qui s'entretuent, mais qui nous laissent en dehors de tout ça.
Merci Dieudonné.
Mais ça, Jean-Bruy, qui peut faire une conclusion, je peux
oui,
le dire.
Bah faites donc.
Contrairement au grincheux qui vous interpelle d'avoir invité ce fantaisiste, je pense que vous êtes tout à fait dans la ligne de Jean Ferré, qui voulait que Radio Courtoisie soit ouverte à tous les talents, et il en a, même si tout le monde ne l'apprécie pas.
Très bien. Alors moi, bravo. Alors moi, ma conclusion, c'est que on va mettre de la musique douce parce que on va tous vouloir serrer la main de Dieudonné, je crois, et qu'ensuite il faudra le temps de faire venir les invités de la troisième heure.
Nous voilà de retour pour un sujet alors qui n'a vraiment rien à voir. C'est même au point que Goffman a cru le moment venu de s'esbigner.
En douce.
Mais vous résistez, je vois que vous tenez bon. Alors nous recevons quelqu'un que vous aviez beaucoup apprécié il y a quelques années, qui, faut dire que c'est un personnage qui ne laisse pas totalement indifférent, qui est Jean Frolla. Bonsoir Jean Frolla. Je vais le micro devant vous. Si vous parlez dans la boule noire, là, ça fait du bruit partout en France. Autrement, on vous entend pas.
Je suis enchanté d'être là.
Ben, nous aussi, ça nous fait bien plaisir. Il y a quelques années, vous étiez venu nous voir, vous nous avez présenté une invention dont tout le monde disait c'est un truc de fou, ça marchera jamais, etc. Et puis maintenant, grâce naturellement à la société holiste qui peut-être un peu plus maligne que les autres, eh ben, cette invention de fou est devenue un truc sérieux.
Bah oui.
Hein, oui. Vous avez commencé à travailler. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est, en deux mots, votre version à prendre endroit aux spécialistes de la santé, mais votre truc à vous. Comment vous expliquez ça?
C'est simple. On parle depuis toujours de la méthode excentrique, mais, point d'interrogation, comment faire? Alors, moi, je pense que j'ai pas inventé la méthode excentrique, elle existe depuis toujours. J'ai inventé la machine qui permet de pratiquer la méthode excentrique.
Alors, la méthode excentrique, ça consiste pas à se balader avec un chapeau à plumes et un string léopard dans les rues de Paris. La méthode excentrique, ça a à voir avec la santé du corps, quand même.
Oui, ben c'est on peut appeler ça la résistance à l'effort.
Mais ça, moi, je pratique ça d'une façon courante.
Avec mes machines, on ne produit pas d'effort, on résiste à un effort.
Ben, je peux faire une grosse économie parce que moi, je fais ça depuis des années sans machine.
Oui, c'est justement ce qui surprend tout le monde.
Alors, vous êtes ancien champion cycliste, ou ancien cycliste en tout cas, ou ancien mécano-cycliste, je sais pas, vous avez un rapport spécial avec la pédale. Enfin, entendons-nous, je parle pas.
Ancien fabricant de cadres.
Voilà,
c'est ça. De haut de gamme,
cadre,
oui.
Dans les cadres.
Oui.
Et ça vous a donné l'idée de fabriquer une machine qui résiste à l'effort?
Non, c'est pas ça qui m'a donné l'idée. Ce qui m'a donné l'idée, c'est que moi, j'ai eu un accident à 13 ans. J'aurais eu 2 tonnes qui m'est passé sur les hanches et qui m'a escassé les cols de fémur. Bon, mes jambes n'ont plus grandi. Et il a bien fallu que je trouve des forces parce que je pouvais pas décemment courir, faire du vélo, non. Alors j'ai fait de la boxe, puisque mes bras marchaient bien.
Oui, tant qu'à faire.
Mes bras marchaient bien. J'ai 297 combats amateurs.
Et combien de victoires?
262.
C'est pas mal quand même.
Et 17 nuls, ah ben ça, j'avais le punch.
17 nuls, et donc, ça nous reste combien de défaites, ça?
Hein?
Combien de défaites, alors? Pas beaucoup.
Pas combien qu'il en reste?
Oh, genre une trentaine, quoi.
Oui.
Trentaine, oui, sur 300 fois 10 secondes, ça fait 5 minutes par terre.
Puis quelques,
c'est pas trop long.
Quelques matchs nuls. Non, là, je me défendais pas mal, là.
Bon, et puis, vous avez donc, alors, la méthode excentrique, résumons, d'une façon un peu
plus claire,
il s'agit d'un appareil qui produit un effort, et qui, donc, c'est une espèce de vélo, si vous voulez, pour simplifier, enfin, un pédalier, hein, c'est ça? Arrêtez-moi si je dis une bêtise. Moi, je me souviens d'un pédalier qui pédale avec une, parce qu'il est actionné par un moteur. Voilà, pédalier motorisé, et le boulot de celui qui s'en sert, c'est de résister. Au lieu d'appuyer pour monter les côtes,
il se retient.
Il retient pour que ça pédale moins fort, comme disait mon prof de physique.
C'est l'entraînement d'hiver des cyclistes qui roulent avec un pignon fixe.
Voilà, c'est ça.
Ils arrivent à freiner le vélo.
Freiner le vélo en descente.
Le pignon fixe. C'est de l'excentrique.
Alors, ce qui est extraordinaire, moi, c'est ce que j'adore chez les inventeurs, qui sont fous, d'ailleurs, comme nous tous, à peu près ici, sauf les personnes recommandables. Je parle pas du tout de Jean-Pierre Rondeau, qui lui est un homme extrêmement sérieux.
Qui est égaré parmi les fous.
Qui a bien connu cette personne en tant que maire adjoint des pavillons sous bois.
Ah, ben voilà, oui. C'est ça, pour ça que vous regardiez avec amitié tous les deux.
Et il venait m'assiéger pour obtenir des fonds pour l'aider à faire sortir sa machine.
Et ben voilà, il a réussi. Et alors donc, nous qui sommes... enfin, moi qui suis un fou, j'adore les inventeurs parce qu'ils ont une dimension comme ça, un peu folle. Et c'est vrai que depuis le début de la bicyclette, tout le monde a connu les pignons fixes. Mais d'arriver à ce truc Moi, le seul souvenir que j'ai des pignons fixes, c'est qu'on recevait un coup de pédale dans le tibia. Mmh. Vous vous rappelez de ça?
Oui, très bien. Bon.
Alors, je disais donc, mort au pignon fixe. Et je rêvais d'une un truc à un pignon, enfin, une chaîne normale. Et j'ai tanné mes grands-parents pour avoir un vélo avec un changement de vitesse pour arrêter de recevoir des pédales dans le tibia. Et la différence entre Frelat et moi, c'est que Frelat, lui, dit, vive le pignon fixe, et il invente une machine. Voilà. Tandis que moi, je prends des coups de pédales dans le tibia.
Oui, c'est-à-dire que, moi, pour m'entraîner, j'avais du mal à monter les escaliers. Et j'avais pas beaucoup de force dans les jambes.
À vélo?
Et je m'entraînais en les descendant.
Ah ben voilà.
Tous les dimanches, avec les copains, on allait à la Tour Eiffel. Eux, ils montaient à pied. Moi, je montais par l'ascenseur. Et je redescendais à pied. Et j'étais en forme trois fois plus vite qu'eux.
Ah oui, ça a remarqué, je comprends un peu. S'il faut vraiment être dans les escaliers, je préfère les descendre que les monter.
Et alors, bah, il m'a fallu chercher parce que j'avais mal. Après, j'avais mal au dos et tout ça. Il m'a fallu chercher des combines. Et un jour, il y a très longtemps, comme je ramassais tous les bouts de ferraille qui se baladaient, il restait un vélo santé, il restait les quatre pieds et le pédalier. Alors, à l'époque, j'avais une usine à Aulnay, avec 32 ouvriers. On fabriquait des cadres pour Motobécane, Vélosolex, qu'il envoyait en Amérique. Alors, j'essaye de pédaler sur ce truc. Comme il y avait des cadres de vélo d'accrocher, je m'accroche par les cadres de vélo et je pédale. Quand je sentais mon dos qui pesait un bien fou. Je dis, bon sang, mais c'est bien sûr. Et alors là, petit à petit, j'ai cherché. J'ai essayé des tas de combines. Puis j'ai bouffé un tas de pognon. Tout ce que je gagnais passait. Et je gagnais de l'argent parce que j'étais, en ce qui concerne les cadres de vélo, le meilleur constructeur du monde. J'ai des preuves. Hein? Vous aurez vu les vélos spéciaux pour le désert, qui font 80 km par jour dans le désert. Alors que les gars qui le font en VTT arrivent à faire à peine 30 km par jour.
Moi je croyais que c'était les tubes Reynolds qui étaient les meilleurs fabricants de cadres. Non?
Hein?
C'est pas les tubes Reynolds?
Ah bah si, il y avait les tubes Reynolds, oui.
Ah bon? Non, mais quand même, hein, parce
les
que...
Les Columbus, ouais. Le meilleur des tubes qui a existé, c'est le japonais, le tube Ishiwata. Une résistance super. Bon.
Mais en l'occurrence, c'est le tube Frelat qui l'a emporté, le cadre Frelat qui l'a emporté et qui vous a conduit à fabriquer cet appareil, alors qu'on appelle l'appareil Evolis, c'est ça? C'est comme ça que ça s'appelle
l'appareil Evolis, c'est venu bien après.
Non, mais après, bien sûr.
J'ai d'abord fabriqué la T310. C'est un appareil de musculation où des tas de sportifs ont eu des résultats. J'ai des modèles dans mon truc, là. Que ce soit Alain Bondu, Philippe Boyer. Puis tous s'entraînaient là-dessus et faisaient des performances. Bon, un autre hein, qui pesait du demi-fond derrière grosse moto, vous savez. Mmh. Il avait son record à 52 km dans l'heure, s'est entraîné à moi sur ma machine, il a fait 59 km dans l'heure. Hein, petit résultat. Hein. Alain Bondu, tout ça. Bon, j'ai pris la bombe Nicoloso. Je l'ai connu à sa première course cycliste parce que j'aimais bien aller voir les bombes courir. Je lui dis, tiens, t'as un style qui me plaît, je vais m'occuper de toi. Alors, je commence à lui faire un vélo, et elle voulait faire de la piste, de la vitesse. Au mois de mai, elle fait les championnats d'Île-de-France, elle gagne pas une, rien du tout. Alors, je lui prête un AT310, et je lui donne les exercices à faire. Un mois après, jour pour jour, championne de France, sans perdre une seule manche.
Eh ben. Et voilà après, un homme qui fabrique des champions.
Après, oui, après je l'ai entraîné, et c'est en 82, elle était mûre pour les championnats du monde. Et rendez-vous à la CIPAL pour partir aux championnats du monde. Et monsieur, comment il s'appelait l'entraîneur, là?
Peu importe, les anges se souviendront de lui.
Son nom me reviendra. Et tiens, Isabelle, tu vas faire un petit peu de derrière Derny sur la piste. Évidemment, ils auront une belle fille sur la piste. Le connard se retourne et il pousse Isabelle par terre. Fracture du crâne, fracture de la jambe.
C'est pas drôle.
Il a fallu 2 ans pour la remettre sur pied. Ouais. Et elle a été championne du monde de vitesse. Ben
ouais. Alors, donc, vous aviez déjà une promesse de collaboration avec la médecine dans votre travail, que vous étiez fournisseur à l'époque. Et puis, par la suite, alors, on va en venir maintenant à cet appareil Evolis, et vous avez rencontré, à la suite de l'émission qu'on avait faite ici, je crois, vous avez rencontré Madame Delaneuve. Madame Delaneuve, c'est comme ça que c'est passé, oui. Vous avez vu cette machine, vous y avez cru tout de suite?
J'ai essayé ces machines à plusieurs reprises. Pendant ce temps-là, Jean Frelat faisait du bol d'air. C'est aussi pour ça qu'on s'est rencontrés. Et je me suis tout de suite rendu compte qu'il s'agissait de quelque chose de très important. Et on a décidé d'essayer de faire évoluer ces machines et de les présenter au monde médical, à la kinésithérapie, au monde de la rééducation,
oui,
et au grand public.
Et ça a été reçu comment alors au début?
Alors on a commencé par créer un groupe de travail, un groupe de recherche scientifique composé de médecins, de kinésithérapeutes, de biomécaniciens, notamment biomécanicien de l'INSERM, Michel Pousson, qui a travaillé dans toute la carrière, s'articule sur le sujet de l'excentrique. Donc effectivement, c'était le bon interlocuteur. Et à partir de ce groupe de travail, on a élaboré une machine et puis on l'a fait évoluer. Au bout de 2 ans d'observation et de mise au point, pour lesquels on a d'ailleurs été aidé par l'ANVAR, hein, c'est peut-être important de le signaler, nous avons créé la machine Evolis. Alors,
est-ce que vous pouvez la décrire physiquement, matériellement?
On va demander à Madame
Henri de le faire.
C'est vraiment son. D'accord. Au sein de la société Evolis, elle est responsable de ce département et elle a œuvré de façon très très précise pour arriver à avoir une description, un vocabulaire et une présentation de cette méthode qui est aujourd'hui très intéressante.
Ah, Pascal Henri, oui. Donc je me tourne vers vous parce que j'imagine que l'auditeur qui ne sait pas de quoi on parle, il doit être un peu perdu quand même.
Oui.
Enfin, il parle de bicyclette, il parle de boxe, il parle de moteur, d'excentrique. De quoi sont-ils en train de parler? Donc alors, je vous passe la parole, puisque personne ne sait mieux que vous, je crois, à décrire l'appareil et l'expliquer.
Alors, je vais peut-être déjà reprendre aussi l'excentrique, parce que je pense que les auditeurs se disent, c'est quoi l'excentrique, en fin de compte? Parce qu'on n'a pas parlé de musculation excentrique. Et toute l'invention et la méthode de Jean, c'est de travailler avec la musculation excentrique, c'est-à-dire d'utiliser la capacité d'un effort de résistance à une traction, c'est-à-dire une résistance à une traction qui est plus forte que la vôtre. Hein. Donc votre capacité à effectivement effectuer cet effort va mettre en jeu un muscle, une contraction musculaire, qui est l'inverse de ce qu'on fait habituellement en musculation traditionnelle, c'est-à-dire que le muscle va se contracter, accepter l'étirement, et les articulations vont effectivement s'excentrer, d'où le terme musculation excentrique, par rapport à l'utilisation d'un autre mode de musculation qu'on utilise traditionnellement en musculation, en remise en forme, qui est le concentrique, où là, on fait un effort en poussée ou en portée, et le muscle se contracte, les articulations se concentrent, d'où la terminologie concentrique. Donc c'est bien important de comprendre que l'aspect excentrique, ça joue au niveau de la musculation, et après on va voir sur d'autres aspects fonctionnels et structurels du corps, c'est autant sur les chaînes musculaires que sur les chaînes articulaires, tendineux, ligamenteux, et aussi sur le réflexe, parce que pour résister, comme tout à l'heure ce que disait Jean, c'est que s'il s'entraînait en descendant les escaliers de la Tour Eiffel, c'est pas tellement pour ne pas faire un effort au niveau cardio, c'était surtout par le fait de mettre en jeu cet excentrique par le fait de résister à la gravité, c'est ce que vous faites quand vous descendez les escaliers, et d'augmenter la vélocité, parce que votre muscle, on capte pas les mêmes fibres motrices quand on résiste à quelque chose que quand on pousse sur quelque chose. Ce sont pas les mêmes fibres à l'intérieur du muscle. Et ces fibres, elles donnent, bon, je suis pas biomécanicienne, mais elles vous donnent plus de puissance que si vous travaillez simplement en concentrique, c'est-à-dire emporté sur une puissance normale. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu pour faire le point par rapport à la méthode de Jean, et c'est vraiment un aspect important. Donc, comment ça se passe, en fait, l'appareil Evolis, ça reprend quasiment les protos qu'a fait Jean dans les années 80-85. Vous êtes allongé sur un siège qui est...
Il faut que vous rapprochiez du micro.
Vous êtes allongé, confortablement allongé sur un siège, les jambes en légère antidéclif, c'est-à-dire un petit peu au-dessus de vous, et les pieds sont fixés à l'aide de guêtres qui sont mises au niveau des chevilles sur un pédalier qui est symétrique. Ce pédalier est motorisé. Hein. Donc, comment ça se passe ? Vous allez enclencher le moteur qui va mettre en jeu le pédalier, qui va tourner dans un sens, soit dans le sens pédalage, donc comme sur un vélo, ou dans un sens rétro-pédalage. Mais pendant ce temps-là, le corps étant allongé, il est libre, et le siège est libre, puisqu'on va effectivement débloquer le siège pour permettre l'attraction du corps, qui va suivre effectivement la rotation du pédalier. Donc l'attraction du corps va se faire sur un temps, je dirais, qui correspond à la rotation avant d'une demi-révolution du pédalier. Et sur la demi-révolution suivante, il n'y a plus de traction, hein, puisque le siège repart en arrière. Donc on va avoir, sans travailler dans un premier temps, parce que la méthode de Jean, c'est aussi un travail passif, tant un travail actif. Donc... sur un temps, on va avoir une traction, et sur un autre temps consécutif, un relâchement du corps, qui va jouer effectivement sur ce qu'on appelle l'étirement du squelette, c'est-à-dire du corps, par un effet qu'on appelle micropompage, c'est-à-dire les articulations vont retrouver leur espace articulaire, leur amplitude. Donc ça joue sur tout le corps. Et c'est ça qui est important, c'est que la méthode, elle permet à chacun de travailler sur son corps sans porter son poids, donc sans, effectivement, on n'est pas en rapport avec la gravité. On est étendu, donc on peut retrouver aussi une respiration qui est synchronisée au mouvement, donc il y a également un travail respiratoire qui va se faire. Et en même temps, on va effectivement pouvoir, cette période passive où on suit le mouvement, on va pouvoir effectivement lâcher prise. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que le corps, tout doucement, va se détendre, on va s'habituer au mouvement de l'appareil, et ensuite, on va pouvoir travailler. Il y a une période qui est préparatoire, et qui va permettre effectivement d'enclencher un travail. Alors, le travail, c'est cette méthode de résistance à l'étirement.
Ça, on va en parler avec Pierre Laudon, qui applique la méthode Soyer.
Oui.
Je crois qu'on l'a au téléphone. Non, ça n'est pas lui. Alors, je ne sais pas qui j'ai à l'appareil. Ah, c'est Monsieur Le Gaz. Alors, Monsieur Le Gaz, donc, son cas est différent, puisque Monsieur Le Gaz, c'est un utilisateur.
Exactement.
Et Monsieur Le Gaz est tétraparétique, c'est-à-dire qu'il est victime d'un déficit moteur des quatre membres.
Exactement.
Consécutif à un accident de la circulation.
Il y a six ans,
oui. Et il est assisté par un kiné, qui est Monsieur Allu. Alors, Monsieur Le Gaz, vous êtes là ?
Je suis bien là.
Bien. Alors, vous êtes donc utilisateur de cet appareil, Evolis, sous le contrôle de votre kiné.
C'est bien ça, oui.
C'est ça. J'aimerais savoir d'abord comment vous l'avez découvert, cet appareil.
C'est le fruit de quelques recherches avec un ami sur des thérapies un peu sortant de l'ordinaire et ce qui nous a mis sur la voie de liste.
Quand on dit que vous êtes tétraparétique ou subissez un déficit moteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas la possibilité d'utiliser vos membres du tout ou simplement d'une façon limitée?
Non, aucunement.
Aucunement.
Comme un tétraplégique, en fait.
C'est ça. Et donc, on vous installe sur l'appareil.
C'est bien ça, oui.
Et alors, en quoi ressentez-vous une amélioration de votre état?
Depuis quelques mois que j'utilise l'appareil, tout d'abord pour dire simplement, j'ai l'impression de réellement bouger comme un homme valide que j'étais. Ensuite, après quelques mois d'utilisation, je reprends légèrement du tonus musculaire au niveau des jambes qui arrivent maintenant à résister à l'appareil. Et au niveau musculaire, au niveau du dos.
Parce qu'effectivement, on imagine qu'au début, donc vos jambes étaient entraînées par l'appareil. Quand on vous demandait de résister, qu'est-ce que ça vous donnait comme impression? Vous aviez l'impression de pouvoir faire quelque chose ou pas?
C'est-à-dire que je ressentais le besoin de le faire, la façon de le faire, mais sans résultat.
Mm-hmm.
Et actuellement, légèrement, les genoux fléchissent. Donc j'arrive à résister quelque peu, mais c'est surtout le tronc qui a été le grand bénéficiaire de l'utilisation, puisque j'ai retrouvé une certaine mobilité du tronc. Et là, c'est formidable pour l'instant.
Est-ce que vous êtes suivi, on l'a dit, par un kinésithérapeute? Est-ce qu'il est avec vous en ce moment-là?
Il est à mes côtés, oui.
Est-ce que je peux lui parler?
Je vous en prie, je vous
Merci.
Parle de suite.
Pierre. Alors, c'est M. Pierre Allut qui est kinésithérapeute.
Allô?
Oui, bonsoir, monsieur.
Bonsoir, monsieur.
Oui, alors, nous venons d'avoir un entretien avec M. Legaz qui nous a expliqué comment il avait utilisé l'appareil Evolis et quels étaient pour lui les résultats dans l'état actuel des choses.
Oui.
C'est vous-même qui l'avez orienté vers cet appareil?
Non, pas du tout. C'est lui qui a pris l'initiative de prendre des renseignements à ce niveau-là. Donc, c'est lui qui a acheté l'appareil et moi, je m'en occupe pour le transférer dessus et le coacher un peu en sorte sur l'appareil.
Mmh. Alors, quel est votre constat? Il y a combien de temps? Il y a quelques mois que vous utilisez ça, tous les deux?
On a l'appareil depuis 6 mois, plus ou moins. Écoutez, moi je voudrais d'abord préciser que Bernard n'est pas un vrai tétraplégique dans le sens où il n'y a pas de lésion totale de moelle, puisqu'il a une contusion médulaire en C2, C3, ce qui fait que certaines informations motrices et sensitives passent quand même, ce qui fait que il est clair que la contraction volontaire, il y en avait déjà une au début, principalement du côté droit, donc ce qui permet quand même de... Dès le début, il y avait quand même déjà une petite résistance au niveau du membre supérieur et du membre inférieur droit.
Est-ce que vous voulez dire par là que dans le cas d'une disparition totale du canal, enfin d'une section du canal médulaire, par exemple, là, il n'y a pas de possibilité de...
Moi, je pense que s'il y a une lésion complète de la moelle, il est clair que le travail actif est plus difficile et plus compromis. Cela dit, il y a moyen d'utiliser l'appareil en passif, évidemment. Chez Bernard, on sait l'utiliser dans les deux cas. Et il s'est quand même pas mal amélioré au niveau actif depuis 6 mois.
Est-ce que ça a également des effets? Alors là, ce sera peut-être de votre domaine, mais comme vous accompagnez Monsieur Legaz depuis longtemps, depuis 6 mois, vous devez bien voir ça. Est-ce que ça a des effets sur l'état général du patient?
Écoutez, on a quand même pu remarquer quelques améliorations quand même dans les activités de la vie quotidienne. Maintenant, je tiens à préciser aussi que Bernard ne fait pas que ça. Il fait aussi de la kinésithérapie, il va sur la table de verticalisation, il va chez l'ostéopathe, il va chez l'acupuncteur. Donc c'est clair que Evolis rentre dans un programme de rééducation quand même assez complet. Donc c'est clair qu'il n'y a pas que ça. Maintenant, c'est sûr qu'Evolis a permis quand même une amélioration ces derniers mois dans son état général, dans les activités de la vie quotidienne, telles que il parvient maintenant à à boire, à manger tout seul, à tourner les pages de son livre, à changer les chaînes de la télévision, toutes des petites choses qui finalement ne sont pas des petites choses qui sont pas terribles, mais finalement dans les gestes de la vie courante pour lui, c'est sûr que c'est un grand pas en avant, quoi. Hein.
Vous avez parlé de cette méthode avec de cet appareil avec des confrères?
Pas beaucoup, parce qu'ici en Belgique c'est pas très connu. Puisque je crois qu'il n'y a pas encore beaucoup d'appareils en Belgique. Je faudrait demander à Pascal, mais je crois qu'il y en a peut-être deux ou trois. J'en ai parlé, mais c'est vrai que c'est assez méconnu ici en Belgique. Donc voilà.
Donc le bilan pour vous à 6 mois, il est significatif. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui n'aurait pas utilisé cet appareil aurait des résultats comparables, inférieurs? Quelle est votre impression générale?
Moi, je pense que pour l'instant, le bilan est positif, c'est sûr. Ce que je voulais dire aussi, c'est que même psychologiquement, je crois que ça fait du bien à Bernard aussi, puisque finalement, soit il est au lit, soit il est en chaise. Et le fait d'être sur cet appareil, il est sur cet appareil comme vous et moi, ou comme un sportif de haut niveau. Il pourrait très bien se retrouver sur Evolis comme Zinedine Zidane. Mais donc c'est vrai qu'au niveau psychologique, ça lui fait un bien fou. Et au niveau moteur, c'est clair qu'il y a une évolution positive depuis qu'on l'utilise. Donc on espère que ça va continuer, puisqu'on évolue dans le protocole, dans le sens où on augmente le travail actif, au niveau de la respiration, il arrive à mieux s'appliquer aussi. Donc c'est sûr que le fait de voir des évolutions, on espère que ça va continuer, et on verra un petit peu à l'avenir.
Je vous remercie, monsieur. Merci beaucoup, bonsoir.
Au revoir.
Alors là, on a eu l'opinion d'un patient, on a eu le témoignage d'un patient, l'opinion d'un kiné. Je crois qu'on va avoir un autre patient, là, me semble-t-il. C'est Monsieur de Palma, c'est ça? Non, ce n'est pas Monsieur de Palma. Nous sommes dans le désordre. Alors, allô?
Allô?
Oui, et je vais vous demander de vous présenter parce que... Ah, c'est le Monsieur Laudon.
Oui, c'est
lui. Bonsoir, monsieur. Bon, oui, bonsoir, donc, vous êtes kinésithérapeute analytique, vous êtes pratiqué la méthode Soyer.
Oui.
Et vous avez une expérience de l'appareil dont nous parlons ce soir.
Oui.
Qui est l'appareil Evolis.
Oui, j'ai une expérience déjà depuis 3 ans de cet appareil.
Et donc, je vous donne la parole pour livrer votre témoignage, les aspects positifs ou négatifs éventuellement de cette expérience.
Oui, bien sûr. Écoutez, moi, ça fait longtemps que je l'utilise, ça fait presque 3 ans, et dans mon cabinet, on traite beaucoup de colonnes, et c'est indispensable, c'est devenu indispensable, parce que la caractéristique de cet appareil, c'est que c'est le seul appareil qui permet de faire fonctionner la colonne vertébrale en décompression, parce que vous avez un pédalier qui tourne, et vous résistez contre la rotation de ce pédalier, évidemment, vous avez un contre-appui au niveau des bras. Et en faisant ça, vous mobilisez les petites facettes articulaires qui relient les vertèbres entre elles et vous les faites remonter. Or, les pathologies au niveau de la colonne vertébrale, au départ, ça correspond toujours à une descente de ces facettes articulaires. Et grâce à l'Evolis, vous faites remonter ces facettes. C'est aussi ce que je fais, bien sûr, manuellement quand je traite une colonne cervicale ou quand je traite une colonne lombaire. Mais avec l'Evolis, vous le faites vous-même. C'est ça qui est extraordinaire.
Pardon de vous poser une question un peu de béotien, mais souvent on a l'impression que certaines manipulations, certains actes de kiné,
oui,
présentent un risque, notamment quand vous parlez de traiter des colonnes cervicales.
Ah, tout à fait.
Dans le cas de l'appareil Evolis, est-ce que ce risque est totalement écarté?
Mais au niveau, l'appareil Evolis agit d'une façon très très indirecte au niveau cervical, mais au niveau lombaire ou au niveau dorsal, il n'y a absolument aucun risque pour une raison très simple. C'est que l'appareil mobilise les facettes articulaires d'une façon axiale. Or, ce qui est dangereux au niveau d'une colonne, c'est de travailler en torsion.
En torsion, oui.
Les techniques ostéopathiques au niveau de torsion cervicale sont quand même dangereuses. Il y a entre 200 et 400 accidents par an. Les techniques au niveau lombaire peuvent aussi aggraver une hernie discale qui se prépare.
on n'a aucun problème avec les Volis, ni avec les techniques de kiné analytique, qui sont toutes les deux des techniques de remontée axiale, de remontée de facette articulaire dans l'axe du corps.
Et vous travaillez toujours dans l'axe du corps. Hein,
toujours. Donc, parce que en fait, la pathologie, la problématique de l'étage vertébral, c'est de faire remonter ces facettes. Et c'est exactement ce que fait les Volis. Et l'avantage, c'est que quand vous mettez quelqu'un 10 minutes là-dessus ou 20 minutes là-dessus, quand il ressort, eh bien, il a réharmonisé sa colonne lombaire et sa colonne dorsale d'une façon agréable et sans faire un effort très, très important. Et au niveau dorsal, c'est très intéressant parce que il y a beaucoup de gens qui sont, on dit, syphosés, qui ont le dos voûté. Mm-hmm. Et avec cet appareil, quand vous ressortez d'une séance de 10 ou 20 minutes, vous avez une sensation de grandissement. Et en plus, vous avez une sensation de bien-être. Alors, je me posais la question, pourquoi est-ce qu'on avait une sensation de bien-être? Eh bien, en fait, je me suis rendu compte, parce que j'ai fait une expérience avec un appareil qui mesure l'oxygénation du sang. Eh bien, je me suis rendu compte que quand on en fait 10 minutes, on améliore l'oxygénation du sang. Et ça, je ne m'y attendais pas, j'ai été très étonné de ce résultat. Et c'était un des éléments du bien-être qu'on a. Donc, évidemment, on peut utiliser ça en même temps avec le bol d'air jaqué.
Oui, j'allais le dire, effectivement, parce
aussi
que...
aussi une amélioration de l'oxygénation. Mais là, l'amélioration de l'oxygénation se fait grâce à une meilleure amplitude au niveau du diaphragme, une meilleure amplitude au niveau du gril costal. On obtient aussi un résultat comme ça.
Alors, on imagine quelqu'un qui serait sur l'appareil Evolis en train de respirer dans un bol d'air jaquier. Là, c'est un surhomme que vous nous fabriquez.
Ben c'est quelqu'un qui est parfaitement oxygéné et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il est très bien et puis il est détendu parce que dans le stress, il y a toujours quelque part une sous-oxygénation tissulaire. Donc, vous voyez, oui. C'est intéressant. Parce que on a un renforcement musculaire global, hein, au niveau tout le long de la colonne. On a aussi un renforcement de la ceinture abdominale. Et il y a aussi autre chose, c'est le renforcement au niveau périnéal et au niveau sphincter.
Je croyais qu'il n'y avait plus de périnée.
Comment ?
Je croyais qu'il n'y avait plus de périnée. Non, c'est pas drôle ça. C'est pour faire rire, mais ça fait rire.
Oui.
Très peu de monde.
Donc, on a. Lorsqu'on a par exemple en clientèle une jeune femme qui vient d'accoucher et qui a des petites pertes urinaires, alors on la met sur cette machine et en quelques séances, d'abord elle n'a plus de problème lombaire s'il y en avait eu, et en plus il n'y a plus de pertes urinaires.
Oui.
Et ça marche même sur des gens de 70 ans. J'ai fait l'expérience avec une cliente qui avait 72 ans, et c'est une femme, elle était obligée de se garnir quand elle allait se promener en ville, de prévoir des étapes. Eh bien, elle a fait 15 séances là-dessus, terminée.
Ça, c'est très important, parce qu'à l'heure actuelle, on sait que c'est un problème. On sait par la télévision, par la publicité à la télé que c'est un problème.
Et bien sûr. Et à la 7e séance, je lui demande comment ça va. Elle me dit, je ressens à nouveau mon ventre. Ouais. Alors ça, c'est extraordinaire comme expression.
Ouais.
Parce que ça signifie que l'appareil a fait fonctionner tous ses muscles profonds, y compris les sphincters. Et à la 15e séance, elle me dit, mais quand je vais me promener... Je me garnis toujours par sécurité psychologique, mais quand je reviens, la garniture est sèche. Donc même chez des gens qui sont déjà d'un certain âge, on a des résultats. Ce qui prouve d'ailleurs qu'on peut même à un certain âge faire de la musculation. Mais évidemment, pas n'importe laquelle. Et cet appareil permet de réentraîner tout un tas de gens comme ça à la musculation. Vous voyez. Et alors pour le traitement, pour les douleurs, les dorsalgies, l'appareil il est extraordinaire parce que la dorsalgie, soit vous étirez les jambes, technique ostéopathique ou technique kiné-analytique axialement, et là en une ou deux fois c'est terminé, mais lorsqu'ils ont toujours mal, moi je les mets sur l'appareil 10 séances, 15 séances, et là il n'y a plus de problème.
J'avais fait l'expérience avec l'appareil bricolé par Jean Frolla à l'époque où ça se passait dans un atelier au fin fond de la banlieue.
Oui.
Et j'avais été complètement étonné par effectivement l'efficacité au point de vue de le traitement des douleurs lombaires. Et on n'était pas sous contrôle d'un kiné. C'était Jean Frolla qui m'avait installé sur sa machine. Et c'était vraiment très, très frappant. Et je sais que beaucoup d'auditeurs de la radio à l'époque étaient allés voir Jean Frolla pour lui demander de l'aide, et ils en étaient assez contents dans l'ensemble. J'ai pas eu de protestation. Peut-être qu'il enterrait les morts dans son jardin, je sais pas.
Mais moi, je vais vous dire, la première fois que j'ai essayé cet appareil, le hasard fait bien les choses, j'avais un lumbago aigu, ce qui m'arrive une fois tous les 20 ans. Et donc, j'y vais, je me mets sur l'appareil pendant 20 minutes, et je force comme un fou sur cet appareil, j'arrivais à bloquer le pédalier, et je me relève au bout de 20 minutes. Eh bien, écoutez, j'avais 90% d'amélioration.
Oui,
puisque on a des techniques on a des tests qui permettent de savoir si la facette articulaire est en bonne position ou en mauvaise position. Donc, je m'étais testé avant la séance. Je me suis testé après la séance. Il y avait 90% d'amélioration. Et je ressentais bien que si j'avais refait une deuxième séance le lendemain, le problème était résolu. Et c'est ça qui m'a fait m'intéresser tellement à cette machine parce que des résultats comme ça, c'est quand même extraordinaire.
C'est spectaculaire.
Et pour la remise en forme...
Je voulais vous évoquer ça avec vous, parce qu'on avait prévu de recevoir le témoignage de sportifs, mais ils ne sont pas joignables par téléphone. Et donc, je me tourne vers vous pour vous poser la question. Il ne s'agit pas seulement d'un appareil de traitement de certaines, de certaines affections.
Non.
Il s'agit aussi d'un appareil qui permet un entraînement sportif.
Tout à fait. En fait, l'intérêt de cet appareil, c'est qu'on travaille, on peut travailler en excentrique. Et c'est vrai que l'entraînement en excentrique est quand même 4 fois plus intéressant que l'entraînement en concentrique. Hein, c'est-à-dire résistance du muscle, alors que les deux extrémités du muscle s'éloignent. Donc, quand on fait travailler le muscle comme ça, eh bien, pour le même effort, on a 4 fois plus de résultats à l'entraînement. Et c'est pour ça que tous les gens dont M. Froilla s'est occupé, qui étaient des champions, qui se rééduquaient, qui se réhabilitaient, tous ces gens-là, après, ont eu d'excellents résultats. Et moi, d'ailleurs, je suis le conseil de M. Froilla, je monte les escaliers en ascenseur, mais je les descends toujours à pied.
Non, moi, il y a longtemps que je fais ça, puis je n'ai pas l'intention de changer.
Oui, mais tout à fait.
Merci beaucoup. Merci pour ce témoignage fort intéressant. Et puis, je vous souhaite de continuer à aider beaucoup de malades et à guérir beaucoup de souffrances avec l'aide de cet appareil qui est remarquable. Moi, je me sens un petit peu le parrain éloigné, disons,
oui.
de l'appareil de Jean Froilla. D'abord parce que j'aime beaucoup le personnage de Monsieur Froilla. Vous le connaissez?
Oui, bien sûr que je le connais. C'est un monsieur extraordinaire,
oui.
qui est plein d'idées.
C'est un délicieux lutin
et
qui est plein d'inventions, que le bon Dieu a béni de la capacité d'inventer des choses invraisemblables.
Exactement, et des gens comme ça, il n'y en a pas beaucoup.
Merci.
Merci.
Au revoir, monsieur.
Au revoir, monsieur.
Voilà, alors on ne peut pas arriver à joindre les sportifs que vous aviez prévus, que vous m'aviez signalé comme étant des utilisateurs pour leur entraînement, mais je crois que la démonstration est faite. Je suis vraiment content qu'on ait pu parler de cet appareil, enfin terminé, réalisé, commercialisé, parce que on en a vu, les auditeurs de Radio Courtoisie ont assisté à ses débuts qui paraissaient complètement relevés du professeur Tournesol ou de je sais pas, l'espèce de concours Lépine du 19e siècle. Bon, eh ben non, ça marche, voilà, c'est fait. Et je suis content de pouvoir l'annoncer. Et vous nous avez des messages?
On nous parle d'une machine, mais on ne comprend pas ce que nous disent les intervenants. Peuvent-ils épeler le nom de cette machine?
Cette machine s'appelle Evolis, E-V-O-L-I-S. C'est la machine de Jean Froilla, F-R-E-U-L-A-T, qui est commercialisée par la société Holiste, H-O-L-I-S-T-E, laquelle est également la société qui commercialise le Bolder Jacquier. Je le dis pour mémoire, j'ajoute, parce que à l'intention des personnes bien toujours bien inspirées, que ça n'est pas de la publicité.
Là, j'ai pensé
oui, justement. Il s'agit d'apporter à nos auditeurs, qui sont nombreux à le comprendre et à s'en féliciter.
Et à souffrir.
L'aide, l'information nécessaire pour trouver des techniques nouvelles. Quand je parle des produits Beljanski, je ne suis pas stipendié par Beljanski. Quand je parle des produits de la Mégamine, je ne suis pas payé par Mégamine. Quand je parle du Bolder Bolder-Jacquier. Alors j'avoue, j'ai à ma disposition un appareil Bolder-Jacquier.
Vous n'avez pas toussé depuis le début de la soirée. En
plus. Voilà, c'est tout, le constat est fait.
Est-ce que vous pouvez nous dire si justement le Bolder-Jacquier sera au salon de la médecine douce?
Oui, oui. Oui, il sera, voilà. Madame Delaneuve, vous avez la parole pour terminer. Où peut-on se renseigner, se procurer cet appareil? Où le trouve-t-on?
Je voudrais rajouter quelque chose de très important, c'est que cette machine Evolis a donc été créée à la suite de nombreuses approches scientifiques, qu'elle est aujourd'hui chez des kinésithérapeutes, dans des centres de remise en forme ou de rééducation, et c'est une machine sophistiquée, très coûteuse, qui se trouve chez les professionnels. Aujourd'hui, devant la demande de très nombreux particuliers qui souhaitent faire cette méthode à domicile, nous avons décidé de travailler à une nouvelle machine qui s'appellera EVOP, qui sera présentée au salon médecine douce justement, et qui sera une machine simplifiée, mais qui permettra d'obtenir les mêmes résultats, qui aura les mêmes caractéristiques, qui permettra de faire un travail en excentrique, en douceur, et qui atteindra un coût plus de la moitié moins cher que Evolis.
Donc ce sera à l'usage des particuliers.
Ce sera à l'usage des particuliers. Ce sera quand même un investissement important et une formation. Avec la machine, nous proposerons une formation parce qu'on ne peut pas se mettre là-dessus sans vraiment avoir approché de façon précise la façon dont on peut s'en servir. Donc ça, c'est la nouvelle importante que je voulais vous transmettre aujourd'hui, parce que ça va certainement rendre cette méthode plus accessible.
Je vous remercie beaucoup. Alors, on peut vous voir donc au Salon de médecine douce. On peut vous joindre, on peut se renseigner aussi sur un site internet, je crois.
Alors, le site, c'est holiste.com.
holiste.com.
Le
holiste.com.
Oui.
L'email, c'est contact@holiste.com. Et le numéro de téléphone, 03 85 25 42 63.
Alors c'est valable pour les professionnels et puis également pour les particuliers qui voudraient...
27. Voilà.
Pardon, le téléphone, vous voulez le répéter?
03 85 25 29 27.
29 27.
OK.
Et puis contact arrobas, pardon, excusez-moi.
Contact arrobas holiste.
holiste.com. Et le site internet www.holiste.com.
Et l'adresse, le port 71 110 Arte. A-R-T-A-I-X.
Voilà. Merci beaucoup.
Comme ça, il y a tout.
Et puis, un jour, peut-être, vous nous parlerez de vos... Je crois que vous avez des lunettes tout à fait extraordinaires.
Oui.
Alors ça, il faudra qu'on en parle. Parce que ça, c'est une chose qui me... Tout le monde nous parle de ça. On a beaucoup d'auditeurs qui nous disent, ou qui ont dit à ma femme, « Ah, mais il faut leur faire parler de ces lunettes. Ce sont des lunettes sans verre. » qui permettent de voir plus clair. Vous m'expliquerez comment ça marche quand
bon,
même, parce que
volontiers.
Ça c'est tout à fait intéressant.
Volontiers.
Est-ce que je peux faire deux, trois annonces?
Oui, pendant qu'on va demander à Monsieur Gohain de prendre cette place-là.
Alors, réunion d'information de l'Association nationale des victimes de l'insécurité, présidente Blandine Julien. Réunion demain soir, jeudi 30 novembre, de 20h à 22h à Versailles, à l'université Inter-Age, 6 impasse des gendarmes. Dans le cadre du Forum de la France chrétienne, soirée du vendredi 1er décembre à 20h30, par le Théâtre du Regard, itinéraire d'un pèlerin, Ignace de Loyola, crypte du Martyrium Saint-Denis, 11 rue Yvonne Le Tac, Paris 18e, métro Abbesse, prix des places 8 euros, renseignements 08 75 28 29 15.
Dernier livre journal.
C'est pas une raison.
C'est une raison de le dire.
C'est une raison d'en parler, oui. La première rencontre universitaire de l'Institut du Bon Pasteur sur le thème « Foi et raison ». aura lieu le samedi 2 décembre de 9h30 à 18h, espace Moncassin 164, rue Chavel, Paris 15e.
Merci.
Je vous avais demandé si je pouvais faire ma petite annonce.
Ah, votre petite annonce, alors vite, alors vite, vite.
Pour les 20 ans du Téléthon, les salons de coiffure Jacques Dumont se regroupent pour une ouverture exceptionnelle les 8 et 9 décembre, de 19h30 à 0h30, au 5 place Léon Blum, Paris 11e. À cette occasion, leurs tarifs seront diminués de 20% et l'intégralité de la recette sera reversée au Téléthon. Pour prendre rendez-vous, vous appelez le 01 43 79 72 77. Je répète, 01 43 79 72 77. Je profite largement de la panne de courant pour continuer mes annonces. Alors, la grande procession pour l'Immaculée Conception aura lieu vendredi 8 décembre à partir de Saint-Nicolas-du-Chardonnay à 19h. Le chœur Montjoie-Saint-Denis chantera à Saint-Bernard de Dijon le samedi 2 décembre à 19h30 et le vendredi 8 décembre à 20h30 pour l'Immaculée Conception à Notre-Dame-du-Lys, 7 rue Blomet à Paris 15e.
C'est Elsa Popine, mais...
Alors, oui. Le spectacle de Dieudonné, il a lieu bien au Zénith, mais c'est le 18 décembre. On ne sait pas l'heure, mais vous pouvez vous renseigner au 01 43 38 06 99.
C'est forcément 20h30.
Voilà.
Alors, on vient de vivre un épisode à la Elsa Popine. J'essaye pas de vous raconter, parce qu'on s'est retrouvé dans le noir complet pendant quelques minutes. À cause d'une lampe qui a été bousculée, qui s'est débranchée. Enfin bref, voilà, donc c'est ce qui explique le côté encore plus fou que d'habitude de cette fin d'émission. Quelques minutes pour parler d'un livre, j'aurais voulu en parler plus longtemps, mais un livre merveilleux d'Arthur Gohin. Ça s'appelle « Le lexique des mots exquis pour se rafraîchir l'esprit et se réchauffer le cœur ». Alors, le principe rejoint, c'est ça qui est très amusant, les vieilles recherches, les vieilles intuitions talmudiques sur l'importance du mot et sur ce que j'ai déjà évoqué dans cette émission une fois, on en parlera une autre fois beaucoup plus longuement, ce qu'on appelle les champs sémantiques. C'est-à-dire le fait que les mots appartiennent à des groupes qui dépassent le sens des mots. Et que par exemple quand il y a des mots, alors ça a été expliqué par un spécialiste de la Kabbale, un écrivain juif spécialiste de la Kabbale, dans un bouquin formidable je trouve, les mots par exemple qui concernent le cheval se retrouvent donc dans le cheval bien sûr, l'étrier, la crinière, eh bien ils se retrouvent dans l'oreille aussi, mais d'une façon étrange, c'est-à-dire qu'il y a la crinière, il y a l'étrier, il y a l'enclume sur laquelle on forge les fers à cheval, etc., etc. Et puis, j'avais lu tout ça, j'ai dit, ça c'est typiquement quand même du travail de talmudiste et du travail kabbalistique. Et puis je reçois ce livre, Lexique des mots exquis, d'Arthur Gohin, qui va un peu dans le même sens, parce que il y a des définitions qui sont à mourir de rire. Il y a par exemple, le chameau est un animal qui souffrirait tant de maux à passer par le chat, que nul n'a jamais pensé cela possible, sauf Jésus en prenant ses mots sur lui. Le chat était une porte de Jérusalem minuscule. Voilà.
Il y en a une qui est formidable. Damnation. Nation des dames. Effrayée par ce mot qui signifie enfer, on a fait des églises la nation des messieurs. Ce qui a rassuré.
Voilà, ça, c'est joli.
Messieurs comme messie, évidemment. Comme
mosquée, messie. Moquerie masquée, nous dit l'auteur. Alors, on a vraiment 2 minutes. Je voudrais que vous nous disiez, premièrement, ce qui vous a inspiré ce livre et ce qui vous donne le droit de le faire, en fait. Quel titre avez-vous pour jouer comme ça avec les mots?
J'ai le titre que je suis chrétien et donc j'appartiens à mon père. Et sinon, c'est une curiosité proprement scientifique qui m'a poussé à le faire. C'est-à-dire que j'étais attiré par ces résonances. Ces résonances, donc curiosité, donc recherche, enfin dans mon esprit.
Donc il s'agit vraiment de résonance, alors au sens profond du terme, ballet, petit bal figuré. Ballerine est une participante de ballet tellement appréciée que son nom désigne maintenant ses consœurs. L'usage de ce prénom s'est malheureusement perdu. Alors il y a des choses. Heureux est celui qui vit dans leur présent, pour les cieux et en eux, sans autre certitude. Envie, doux, soucieux. Je trouve, il y a un côté délirant, mais qui s'apaise à mesure qu'on avance dans le bouquin. C'est un bouquin qui enseigne la façon de le lire à mesure qu'on le lit.
C'est vrai.
Hein?
C'est vrai.
Chaloir est un verbe dont il me chaude vous présenter la valeur.
J'aime beaucoup ce verbe, qui est bon, qui j'espère remettre à l'usage.
Quel est votre mot préféré dans la langue française ?
Amour.
Amour. Et vous en donnez la définition ici ?
Tout à fait, oui.
Alors on va la trouver, puisque j'ai ouvert la bonne page, parce qu'il y a quand même un bon Dieu.
Surtout 0-0. 0 minutes, il reste.
Il reste 0 minutes, ça va être un petit
vous
peu
signez,
juste.
Vous
l'amour
signez.
Est un fleuve immense qui coule du côté de l'Orient jusqu'à l'océan Pacifique. À l'image de l'amour, le fleuve immense qui coule au côté du soleil levant jusqu'au paradis. Et vous dites, un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il en sortit de l'eau et du sang. Et c'était de l'amour, effectivement.
Et oui, je crois.
Samedi prochain. Désolé de vous avoir fait attendre aussi longtemps pour vous en consacrer aussi peu du temps, mais on refera quelque chose avec vous si vous voulez bien. En tout cas, je conseille vraiment aujourd'hui très très fortement la lecture de votre livre et son acquisition, d'autant que c'est un livre à compte d'auteur et que je vais quand même donner les coordonnées de l'auteur, vous allez les donner vous-même. Où peut-on commander votre livre ?
On peut commander chez moi au 1 rue de la Veudrenne à Aubusson. Veudrenne, c'est V-E-D-R-E-2-N-E, 23 200 Aubusson. Voilà.
Et le prix est de ?
Le prix, alors, de 6 plus 2, 8 euros.
8 euros. Voilà. Merci beaucoup, merci.
Je le dédicace samedi.
Ah oui, vous dédicacez samedi à la librairie France Libre.
Voilà.
15h à 18h30.
Absolument. Merci à tous. Bonne semaine, que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Programme national à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 29 novembre de 18 à 21h, en différé jeudi 30 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez les cassettes correspondant aux 3 heures de l'émission pour le prix franco de port de 20 euros ou 15 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Et officiers blancs, et votre agonie suprême, la honte de l'Occident.
Radio Courtoisie.
Il est 20h57, voici le programme de la soirée de la nuit sur Radio Courtoisie. Dans un instant, à 21h, les soirées musicales. À minuit, le libre journal d'Alain Griotret avec l'assistance de Michel. Invité Jacques Rougeau, professeur à la Sorbonne, écrivain. Jocelyne Tarnot, mère de famille. Benoît XVI, l'islam et l'Occident. À 2h, l'émission que vous venez d'entendre, le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria. Invité Patrick Goffman, journaliste, écrivain. Jean-Paul Chériguez de Olmeta, journaliste, écrivain, président d'honneur du syndicat épique national. Jean-Pierre Rondeau, financier, écrivain. Jean-Paul Argouarche, prêtre, directeur du village d'enfants de Riomont. Dieudonné, comédien. Jean Frela, inventeur. Marie-Laure Delanef, directrice de laboratoire. Pascal Henry, chargé de communication. Bernard Legaz, ancien chargé de communication. Pierre Allu et Pierre Laudon, kinésithérapeute. Arthur Gohin, écrivain. Libre propos sur l'actualité, le marché de Noël de Riomont, rencontre avec le comédien Dieudonné, un appareil d'aide à la kinésithérapie et d'entraînement sportif. À 6h, les livres du jour, Le bonheur d'écrire de Sylvie Dervin, dirigé par Bernard Cabane avec l'assistance de Lydie. Invité Jean-Gilles Maliarakis, éditeur, écrivain, pour en finir avec la culpabilisation des droites. Bonne soirée, rendez-vous dans 1 minute 30 pour vos soirées musicales.